Un grand bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir, sincèrement, je suis ravi de vous retrouver après quelques semaines de pause. C'est la rentrée, vous l'avez remarqué depuis ce matin sur BFM Business, et forcément c'est aussi la rentrée pour Tech & Co, votre rendez-vous pour cette nouvelle saison. Ne bouge pas, on est là chaque soir, du lundi au jeudi, avec une grosse, un gros best-of dorénavant le vendredi, on aura l'occasion d'en reparler entre 20h et 21h, et vous le savez, c'est Tech & Co, le grand live de la tech sur BFM Business, à la radio, à la télé, avec donc, pour cette reprise au sommaire ce soir, eh bien on va parler dans quelques instants de Samsung. Samsung qui a annoncé il y a quelques jours, peut-être l'avez-vous vu et entendu, de nouveaux smartphones pliants. Eh bien vous savez quoi, le marché du smartphone pliant est de moins en moins anecdotique. On en parlera avec le porte-parole de Samsung France qui sera avec nous. On découvrira aussi une start-up qui s'est spécialisée dans la seconde main, un marché qui explose. Il s'agit de One Second, qui mise tout sur l'intelligence artificielle. Et puis, comme c'est le premier Tech & Co de cette rentrée, on va se faire plaisir, ce sera le premier grand débrief de l'actu de cette saison, et on prendra une heure pour revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours, mais aussi cet été. Et vous l'avez vu, Elon Musk qui a fait encore parler de lui et son éventuel rachat de Twitter qui n'en finit pas. Voilà, vous savez tout ou presque tout, merci d'être là. Tech & Co, c'est parti.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et Tech & Co pour ouvrir le bal, comme chaque soir, c'est de l'actu tech du jour, le meilleur de l'actu tech, ce qu'il fallait retenir dans l'actu des technologies, et c'est avec Frédéric Simotel ce soir. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver, t'es presque bien aussi bronzé que moi, là je m'adresse à tous ceux qui sont à la radio, hein, qui ne nous voient pas, c'est presque indécent. Frédéric, malgré tout, tu as travailler pendant
cette vacances. On continue à suivre toute l'actualité qui ne s'est pas arrêtée.
Qui ne s'est pas arrêtée. On parlera tout à l'heure dans le grand débrief de l'ActuTech, justement, des derniers rebondissements de l'affaire Twitter. Mais pour débuter, quelque chose de plus récent, c'est Amazon qui est intéressé par le rachat d'une boîte qui est spécialisée dans la e-santé, on va dire.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une boîte quand même valorisée auprès de 8 milliards de dollars. Ça s'appelle Signify Health. Alors, on sait qu'Amazon, comme les autres, on sait que Apple, c'est l'un de ses fers de chevaux de bataille.
Ces géants d'Internet aujourd'hui, ouais, vont à fond dans la santé.
Voilà, Microsoft, alors, sous différentes façons, Microsoft, Amazon s'inspire un peu de Microsoft, qui avait racheté un réseau de cliniques, qui rachète ce genre d'entreprise. Et bien là, Amazon avait déjà racheté une boîte qui s'appelle One Medical, c'était en juillet dernier, pour 4 milliards de dollars. Et puis là, c'est une autre société, donc qui s'appelle Signify Health, et qui étudie un peu le parcours, qui travaille sur le parcours de soins,
des patients,
des malades. Alors on est aux États-Unis. Alors c'est quand même très américain, parce que voilà, vous savez, le système de santé américain est assez propre au pays. Mais voilà, c'est encore un moyen pour Amazon de récupérer des datas, et même de jouer sur beaucoup de choses, d'essayer de mixer un peu. Je me sens pas bien, je vais tousser devant Alexa. Ça peut paraître anecdotique, mais on en est là. Hein. Je vais tousser devant Alexa. Eh bien, ça va peut-être repérer
ça donne envie de tousser.
Est-ce que c'est une toux grasse, est-ce que c'est une toux sèche, etc. Mm-hmm. Ça peut-être m'orienter vers un médecin, peut-être m'orienter vers des premiers médicaments qui peuvent m'être livrés. Voilà, c'est un peu tout ça qui.
Et puis n'oublions pas que sur des Alexa aujourd'hui, tu as plein de capteurs, hein, des caméras qui sont de plus en plus perfectionnées, qui pourraient prendre notre température, des choses comme ça.
Hein. Et on sait que Amazon avait déjà lancé son programme Amazon Care, qui à partir d'objets connectés permet de récupérer tout un tas de données de santé. Donc voilà, donc Amazon se place comme un des acteurs de la santé, mais comme les autres GAFA, et on sait qu'aujourd'hui, ça reste un domaine très, très important. Et Andy, alors, petite anecdote aussi, comme à 12 milliards, si on compte les deux rachats, ce sont les deux gros rachats qui ont été menés par Andy Jassy, qui est installé depuis un peu plus d'un an à la tête de Amazon, qui remplace Jeff Bezos. Et donc lui, voilà, pour lui, tout ce qui est autour du health service, de la santé, c'est un axe primordial pour Amazon. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est pas une nouvelle division, une division santé, mais tout ça est relié avec la plateforme de marché, avec l'utilisation de la data, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est les Amazon Web Services, la partie cloud. Voilà, il y a toujours, on revient quand même au métier essentiel d'Amazon autour du cloud et autour des places de marché.
On était du côté des États-Unis pour parler de santé, on va rester dans le domaine de la santé, revenir en France. pas très loin d'ici, à Corbeil-Essonnes, on est dans le 91, avec encore une fois une cyberattaque d'envergure sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, avec une rançon de plus de 10 millions de dollars.
Oui, alors ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, alors là, tout arrêté. Hein,
le blackout.
Le blackout complet.
De l'hôpital.
Donc, le système d'information neutralisé, le plan blanc était déclenché, impossible de prendre des rendez-vous. Enfin voilà, vous imaginez un hôpital qui ne peut plus, qui ne peut plus communiquer entre ses services avec l'extérieur, etc. Il y a même des menaces de blocage, de continuer le blocage si la rançon n'est pas payée, des menaces de divulguer les données de santé. Alors quand on voit la rançon qui est demandée, qui est de 10 millions de dollars, on se dit tout de suite bon. C'est pas des Français qui ont fait ça, parce que un centre hospitalier, même sortir 100 000 euros pour une amende, il ne pourra pas. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Il y a toute la cellule Cybergen, donc gendarmes qui sont dessus, parce que maintenant, ça commence à être des choses, malheureusement, on s'y habitue. Où ces hôpitaux, ces structures sont habituées à être attaquées de la sorte. Et donc,
Comment ça se passe dans ce cas, Fred? Il y a des spécialistes de l'informatique qui viennent et qui essaient de mesurer l'étendue des dégâts.
Il y a déjà une direction informatique. Qui va commencer à isoler un peu les serveurs, voir un peu tout arrêter au départ, et puis après on va commencer à isoler pour essayer de voir d'où vient le virus. Alors souvent il s'est déjà propagé partout, et ensuite c'est des experts qui viennent. Alors c'est des experts de l'ANSSI, c'est des experts des cybergendarmes qui connaissent ça par cœur et qui vont commencer à remonter. Alors il s'agit pas de mener l'enquête, ça sera dans un deuxième temps. Le premier c'est
de sauver les meubles,
d'essayer de voir
et comment de remettre en route l'hôpital,
donc voir si les programmes de sauvegarde fonctionnent bien. Et tout ça s'accompagne, on sait que cet été les attaques ont été multipliées. Un quart des entreprises françaises aujourd'hui ont vu leur solvabilité menacée au cours de l'année 2022. C'est plus 33% par rapport à l'année dernière. On a même une société alsacienne, Clestra, spécialisée dans les meubles de bureau, qui était déjà pas en très bonne santé. Eh bien, la cyberattaque, ça a été le coup de grâce.
Le coup fatal. Ouais. Vous rendez compte que suite à cette attaque, cet hôpital de Corbeil-Essonnes a été obligé de réorienter des patients vers d'autres établissements.
Oui, mais c'est incroyable. C'est,
voilà, c'est fou.
On ne peut plus communiquer.
On va parler de Samsung. Dans un instant, on découvrira leur nouveau smartphone pliant avec François Hernandez qui me rejoindra sur ce plateau. Mais l'actu, cette fois-ci, vient directement de Corée avec un investissement important de 15 milliards.
Oui, alors qui s'accompagne, je vais en reparler dans un instant, de tout. Alors Samsung vient d'annoncer qui accompagne tout le gros plan d'investissement. C'est plus de 500 milliards en tout.
Oui, on en avait parlé il y a un an déjà.
Donc, nouveau centre R&D en Corée du Sud. Alors, c'est à Jinghung, au sud de Séoul. 15 milliards de dollars. Alors, c'est d'ici à 2028, le but, évidemment, c'est de travailler sur les technologies futures, donc qui occuperont les terminaux mobiles. On parle de terminaux pliants, mais justement tout ça c'est des nouveaux composants, donc il faut travailler dessus. Le complexe c'est quand même 100 000 m2, donc c'est assez conséquent. Et donc Samsung a déclaré là qu'il investira en tout 356 milliards de dollars sur 5 ans autour dans les semi-conducteurs, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, et tout ça ça vient se rajouter à un plan qui avait déjà été annoncé l'été dernier de 200 milliards dans les composants. On sait que Samsung aujourd'hui est très fort dans les puces mémoire, mais là aujourd'hui il se lance vraiment à la poursuite des Intel, des TSMC, dans tout ce qui est les microprocesseurs.
Et de l'infiniment petit toujours.
Et puis voilà, derrière les Nvidia, Qualcomm, etc., pour travailler jusqu'aux 3 nanomètres, voire plus. Et donc la Samsung veut vraiment imposer c'est déjà un des gros acteurs évidemment du semi-conducteur, mais aller beaucoup plus loin. Et donc il a plusieurs centres de R&D, il en a d'autres en Corée du Sud, il en a un au Vietnam, et il en fait aussi au Texas, puisqu'on l'a bien compris avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial. Les lignes d'assemblage, il faut être au plus proche des clients. Oui. Les clients, ils sont souvent américains, donc il faut s'en rapprocher.
Voilà, Intel arrive en Europe, Samsung arrive au Texas, c'est un peu logique. Dans l'actualité aussi, ça grippe du côté de chez Oracle, qui est visé par une class action.
Oui, alors ça c'est toujours assez particulier, parce que la class action, quand on la voit comme ça, quand elle est dénoncée dans la presse américaine, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors ce sont trois chercheurs américains, britanniques, qui ont lancé cette class action en disant qu'Oracle, avec tous les systèmes qu'il a mis en place, toutes les bases de données, eh bien, il dispose des datas pour surveiller 5 milliards de personnes. Et donc, ça ne peut pas se faire aujourd'hui à l'heure de la protection des données privées, des données personnelles. Et donc, la plainte... Alors, c'est pas une seule plainte qui dit attention, violation de données. Ils font référence à plusieurs lois fédérales, des violations sur la loi électronique communication privacy, sur la constitution de l'État de Californie, sur la California Invasion of Privacy. Voilà. Ils essaient de cumuler un peu plusieurs plusieurs lois en disant voilà, ça répond pas, on est en train de détourner certaines lois. Donc c'est une approche un peu patchwork, on va dire, de tout ça. Et donc le fond de la plainte, c'est qu'Oracle recueille trop de données et peut les utiliser, peut les revendre à d'autres. Mais alors là où c'est compliqué, c'est que du côté de chez Oracle, on a refusé de commenter, mais on a déjà ce type de class action. Et notamment si on regarde ce qui s'est passé avec Google, Google aussi avait une action qui avait été intentée contre elle. Qu'est-ce qu'a fait le juge? Eh bien, le juge, il a tout simplement dit, attendez, l'organisation là, qui organise cette class action, c'est à but non lucratif, d'accord, bon, c'est tant mieux pour vous, mais le recours collectif, moi, il faut montrer qu'il y a eu des préjudice. Gens qui ont été abusés, que des gens ont perdu leur data, voilà, qu'il y a eu un abus. Et donc là, aujourd'hui, bah, c'est évidemment très compliqué de le démontrer. Et donc, du coup, bah, cette affaire avec Google est en train d'être déboutée. Et donc là, bah, celle-ci aussi...
C'est ce qu'Oracle souhaite peut-être avec cette
Alors, class action. Ils avaient déjà eu une autre class action avec Salesforce aussi autour de ces données personnelles. Mais on se rend compte que c'est pas aussi évident. Hein. Mm-hmm. Vu sous l'angle, on se dit, bah oui, protection des données personnelles. Et puis, on se rend compte qu'une fois qu'on creuse, eh bien, les juges, ils disent, attendez, c'est quoi le préjudice? Combien les gens ont perdu? Vous ne pouvez pas me le prouver. Donc, on peut pas bloquer et demander des amendes pour des choses qui ne se sont pas encore produites.
Voilà. Juste une petite info sur Oracle qui est sortie le 17 août dernier. C'est Oracle qui va charger de la surveillance des algos de TikTok aux États-Unis. Oui. Ça va être un peu le gendarme des algos de TikTok.
Eh bien,
et encore une fois, ils vont en manipuler de la data, là,
oui,
hein, et des
Oracle,
données personnelles.
Oracle avait fait partie à un moment des. Vous savez, quand Donald Trump voulait que TikTok soit repris par une entreprise, enfin la partie américaine soit reprise par une entreprise.
Oracle avait été sur le coup.
Oracle avait été sur le coup, il y avait Microsoft qui était aussi de l'autre côté.
Frédéric, tu ne pars pas trop loin du plateau
on a des choses à raconter,
4 d'Altice Média, le plateau de BFM Business, puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes à partir de 21h pour un gros débrief de l'ActuTech avec du beau monde hein, ce soir. Elsa Bamberon, Christophe Holnet et Guillaume Grallet-Dupont. Voilà. Autant vous dire que.
Et des beaux sujets.
C'est la rentrée. Hein. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va s'intéresser aux nouveautés Samsung. Samsung qui accélère sur les smartphones pliants. On en parle avec mon invité. À tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
On évoquait Samsung il y a quelques instants avec Frédéric Simotel, des investissements monstrueux évidemment dans la recherche, dans le développement, dans les puces, dans les mémoires, les processeurs. Ça paye hein, puisque Samsung est un acteur incontournable dans le domaine de l'électronique grand public, mais pas que. Mais là, on va s'intéresser en fait aux nouveautés de Samsung qui ont été annoncées il y a quelques jours de cela, avec toute une salle de nouveaux produits qu'on va commenter avec mon invité François Hernandez. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir, vice-président. Président, directeur de la division mobilité pour Samsung Électronique France. Hein, vous êtes le monsieur smartphone, entre autres, et mobilité chez Samsung ici. Le pliant, ça fait quelques années que vous y êtes. Hein. Vous avez présenté la quatrième génération des Galaxy Fold, des Z Flip, etc. Il y a de nouvelles montres. Vous y croyez, hein, vraiment dur comme fer au pliant, alors que vous êtes quasiment les seuls sur le marché à sortir des smartphones pliants. C'est assez intéressant d'ailleurs.
C'est vrai qu'on a créé la catégorie en 2019. On en est déjà à la quatrième génération. Mais on voit vraiment une croissance exponentielle des ventes de cette typologie de produits. Donc on voit de plus en plus que les consommateurs adhèrent et véritablement ont envie de nous suivre sur cette aventure. Si on regarde rapidement les chiffres de vente au niveau mondial, il s'en est vendu 10 millions l'année dernière. C'est 4 fois plus que l'année précédente. Et d'ici 2025, certains analystes annoncent déjà un marché à 75 millions de produits au niveau mondial. Donc on voit que c'est en plein essor. Et nous-mêmes, au niveau français, on se rend bien compte qu'il y a un engouement, puisque sur ce premier semestre, on a multiplié nos ventes par 6 sur les smartphones pliants.
Vous comptez vendre 75 millions d'appareils pliants dans le monde en 2025? Alors que vous êtes aujourd'hui
Le marché mondial sera à 75 millions.
D'accord. Donc là, c'est vraiment vous et vos petits camarades qui vont se lancer. Il y en a, hein, certains. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais pas véritablement de, on va dire, d'annonce concrète de la part de chez Oppo, des autres, hein, des Huawei, etc., etc. Donc voilà, vous êtes en train de créer ce segment.
On crée le segment. En Europe, on est quasiment les seuls. Effectivement, On a 99% de parts de marché en France. Donc oui, on crée le segment, on crée la tendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie appétence pour l'innovation sur cette catégorie de produits et que les consommateurs, véritablement, ont envie de nous suivre dans cette aventure.
Ce qui est intéressant, c'est que dans votre ADN, bien évidemment, il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y en a un qui est impressionnant, c'est les écrans. Et justement, pour arriver à faire des écrans, des smartphones pliants, il faut des écrans pliants.
Exactement.
Et c'est vous qui les fabriquez?
Parce que c'est nous qui les fabriquons.
Voilà, vous êtes une espèce d'artisan monstrueux qui fabrique à la fois les processeurs, les écrans, etc. Et aujourd'hui, vous maîtrisez cette technologie d'écran pliable?
Tout à fait. En fait, on a un modèle très intégré depuis la fabrication de composants jusqu'à l'assemblage de produits finis. Donc, on a annoncé les premiers prototypes d'écrans pliants en 2011. Il nous a fallu quelques années pour développer vraiment des produits aboutis. Et maintenant, avec cette quatrième génération, on arrive véritablement à de vrais joyaux dont on est très fiers dans la gamme.
Voilà, c'est de l'OLED, hein, c'est la technologie OLED. Seule la technologie OLED aujourd'hui peut permettre justement d'avoir une finesse et un papier en fait, hein, cet écran incroyable. Mais est-ce que ça dure dans le temps aujourd'hui? Parce que vous commencez, je pense, à avoir des retours, hein, des utilisateurs. Un smartphone pliant de Samsung qui est sorti en 2020, par exemple, vieillit aussi bien qu'un smartphone normal? Sincèrement,
déjà, effectivement, le fait d'avoir une base installée très importante, puisqu'on a démarré maintenant il y a trois générations de ça, nous permet d'avoir des retours d'expérience et de vraiment focaliser sur les innovations qui vont être les plus pertinentes. Et on se rend compte que sur la partie écran, mais de manière générale sur la robustesse et la durabilité des produits, il y avait des doutes au départ. Les consommateurs n'avaient jamais vu ce type d'écran. Et maintenant, il y a vraiment une confiance sur cette typologie de produits. On travaille avec le bureau Veritas qui certifie les produits. Ils peuvent se plier plus de 200 000 fois.
Oui, c'est vrai.
C'est plus de 5 ans d'usage, 200 000 fois.
Quand on voit aujourd'hui le nombre de fois qu'on consulte notre téléphone, si on a un téléphone pliant, on va l'ouvrir et le fermer des dizaines et des dizaines de fois, en fait. Donc là, vous avez annoncé la nouvelle génération des deux smartphones phares un peu de pliants de chez Samsung. Il y a d'un côté le Fold et le Z Flip, c'est ça, hein?
C'est ça.
Donc, le Fold, rappelons-le,
il s'ouvre
à l'horizontale.
Voilà. Et le Flip se replie comme un coquillage.
À la verticale.
Donc, on a vraiment deux formats qui sont plébiscités. C'est pour ça qu'on a maintenu ces formats-là. Mais on a beaucoup travaillé sur la charnière pour qu'elle soit beaucoup plus légère et beaucoup plus fine. Ce qui permet, maintenant, avec un même encombrement, d'avoir un écran qui va être beaucoup plus large. Si je prends le Fold, l'écran en frontal va être beaucoup plus large. Et quand je vais l'ouvrir, je vais avoir une immersion qui va être encore meilleure.
D'accord. Quelles ont été aussi les évolutions technologiques que vous avez apportées sur ce modèle par rapport au précédent?
Alors déjà, il y a la partie photo qui est toujours hyper importante et c'est un des usages les plus importants sur les smartphones. On a intégré dans le Fold 4 le module photo du Galaxy S22+. Comme vous le savez, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en photo, la famille S22. Donc on arrive à un niveau qui est le top de ce que sait faire Samsung. Sur le Flip, on a modifié les capteurs pour qu'ils captent 65% de lumière en plus. Donc la qualité des photos s'est énormément améliorée également. Et puis après, d'un point de vue expérience, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu concentrer l'innovation. On a travaillé avec tous les fournisseurs d'applications les plus utilisés, Meta, Google, Microsoft, qui ont travaillé sur Instagram, sur WhatsApp et ce type d'applications.
Pour proposer une expérience
complètement adapté.
Pliante en quelque sorte.
Exactement. On a trois types de configurations pour utiliser les produits. Fermé, à moitié ouvert, qu'on appelle le Flex Mode, et complètement ouvert. Ces applications sont adaptées dans ces trois modes-là.
Très bien. Donc, le Z Flip, le Fold. Il y a aussi, bien évidemment, une nouvelle montre, hein, la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro. On évoquait tout à l'heure la santé, justement. C'est un sujet sérieux que vous prenez au sérieux, la santé chez Samsung, parce que, bien évidemment, cette montre est bardée de capteurs qui nous permettent de mesurer, évidemment, enfin vous allez nous le dire, mais fréquence cardiaque, etc.
Ça fait électrocardiogramme. On est même capable de mesurer la composition corporelle, ce qu'on a d'habitude sur les balances. Aujourd'hui, on est capable de l'avoir.
La fameuse IMC, c'est ça?
Exactement. On est capable de calculer toutes ces métriques-là, la qualité du sommeil également. On est vraiment sur des montres qui sont positionnées santé, bien-être et sport. La nouveauté maintenant avec ces montres-là, au-delà des capteurs qui sont encore plus aboutis, c'est qu'on rajoute une couche de coaching, ce qui fait que pour le sommeil, on va aider les gens qui utilisent la montre à apprendre à mieux dormir. Et pour le poids, on va également aider les clients à réguler leur poids, voire à partir sur une logique de perte de poids.
On voit que Apple trustent ce marché de la montre connectée. Quels sont vos arguments en fait face à Apple qui aujourd'hui, je le disais, a raflé quasiment tout le marché de la montre connectée. En tout cas, une bonne partie, on va dire.
On a une énorme part de marché sur les montres connectées, donc. On a énormément de clients sur cette catégorie de produits. Véritablement, notre axe de développement, c'est le bien-être et toutes les métriques qui vont être liées au bien-être. Et puis, toute la partie sport que l'on a développée, notamment avec l'arrivée de la Watch 5 Pro, c'est un nouveau segment chez nous qui va permettre d'aider les gens qui sont dans le sport performance à véritablement suivre et améliorer leur activité qu'ils pratiquent.
Merci beaucoup François Hernandez, donc vice-président et directeur de la division mobilité pour Samsung Electronics France, avec donc cette accélération sur ces smartphones pliants. Merci beaucoup.
Merci.
Guillaume Bazoin nous a rejoint sur ce plateau aussi. Bonsoir Guillaume et bienvenue dans Tech & Co.
Bonsoir.
Pour cette première de la rentrée.
Eh oui.
Vous êtes responsable des programmes start-up et entrepreneur de Léonard. Alors Léonard, il faut savoir que c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Voilà, un énorme groupe qui, évidemment, dans énormément de métiers, la construction, l'immobilité, l'immobilier, les énergies, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites en tant que responsable de Léonard ?
Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, on est le laboratoire d'innovation et de prospective de Vinci. Vinci a décidé de se lancer sur cette activité, tout simplement parce qu'on est face à des enjeux qui sont gigantesques. Pour une industrie qui fait à peu près quand même deux fois la taille de l'industrie pétrolière, pour vous donner une idée, mais sur laquelle même des géants comme Vinci ne représentent que des petites parts de marché. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'intelligence, l'innovation, là où elle se trouve. Et donc pour nous, évidemment, ça veut dire l'ouvrir le plus possible et de s'ouvrir à la fois à ce qui peut être fait à l'extérieur par des startups, mais aussi à ce qui peut être inventé à l'intérieur par des collaborateurs du groupe qui peuvent venir de divers horizons, divers backgrounds, et qu'on va accompagner pour développer de nouvelles idées.
Très bien. Alors vous allez nous parler de ce concours de start-up que vous allez lancer, qui est lancé. Clôture des candidatures, c'est le 30 septembre 2022. Quel type de profil cherchez-vous ?
Alors, c'est une très bonne question. Les profils évoluent très largement. Parce que les problèmes auxquels ces startups doivent répondre ont aussi largement évolué. Il faut savoir que nous, notre secteur est historiquement confronté à des problèmes par rapport à ce qui va être la sécurité, le bien-être des compagnons, mais ça fait des années qu'on bosse dessus. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui prend vraiment place avant, c'est tout ce qui est environnemental. À la fois parce que c'est poussé par les employés, par les gens qui utilisent nos infrastructures, mais aussi par la régulation. Et donc, on va avoir des profils historiques de gens qui rentraient dans le BTP sur l'innovation, qui étaient plutôt des inventeurs, des anciens du BTP. Et maintenant, la grosse nouveauté, c'est qu'on a des gens qui pourraient faire à peu près ce qu'ils veulent sur Terre, mais qui se disent, je vais travailler sur l'innovation dans la construction, parce que d'un point de vue d'impact environnemental, d'un point de vue d'impact sociétal, c'est là où je peux bouger le plus et être le plus impactant.
Oui, il y a une marge de manœuvre quand même qui est assez importante pour moins polluer. On sait que toutes ces entreprises, notamment le BTP, est très pollueur en quelque sorte. Donc voilà, on est au début de l'histoire là-dessus.
Absolument.
Ces startups, vous les cherchez en France ?
Alors, on a commencé en France et on se retrouve maintenant à avoir des candidatures qui viennent d'un peu partout en Europe et même de Singapour, des États-Unis et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va aller chercher des startups qui sont en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, parce que beaucoup de boîtes sont incorporées aux États-Unis, même si elles bossent un peu partout dans le monde.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de startups que vous avez identifiées pour qu'on puisse bien visualiser ce qui vous intéresse ?
Alors, pour vous donner un exemple sur ce qui va être la productivité et le côté environnemental dans le BTP, par exemple, l'an dernier, il y a une startup qui nous a rejoint qui s'appelle Rockies. C'est une startup qui a créé une marketplace qui crée une intermédiation entre les chantiers et les carrières. Donc ça permet de savoir, d'optimiser, on va dire, la distance de trajet de ces matériaux, qui a un impact non négligeable de l'impact.
Avec d'énormes poids lourds.
Voilà, exactement. Et d'aller aussi co-optimiser pour les prises, qui a un impact pour la productivité. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui n'est pas sur la partie qu'on imagine typiquement associée au BTP, c'est sur la partie d'usage du bâtiment. Alors, il y a une autre entreprise dans laquelle on a investi, qui est rentrée dans notre programme, qui s'appelle Kaeli Energy, qui vient de l'écosystème grenoblois associé à la recherche qui est là-bas et qui a développé un climatiseur qui utilise à peu près un tiers de l'énergie nécessaire pour une clim traditionnelle.
D'accord.
Tout simplement parce que c'est pas une pompe à chaleur.
Avec le même rendement, c'est-à-dire.
C'est trois fois plus de rendement.
C'est-à-dire que pour trois fois moins d'énergie, on a le même résultat d'une même clim, enfin d'une clim traditionnelle.
Absolument.
Impressionnant ça. Et donc, alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez ces startups? Votre programme s'appelle le programme SEED. Qu'est-ce que vous leur proposez en fait? Des accompagnements, du financement?
Alors, tout ça. On s'est largement inspiré de modèles américains, le modèle de Y Combinator que vous avez sûrement présenté à plusieurs reprises en particulier. Donc, on investit sous forme de BSAR dans ces entreprises-là. On investit 60 000 euros. En échange de ça, il y a une partie de ces 60 000 euros qui est en cash, qui va directement sur leur compte en banque. Il y a une partie qui correspond à l'accompagnement qu'on fait, donc la mise à disposition et l'accompagnement par des mentors internes experts de Vinci, des mentors experts qu'on va identifier, et un programme d'accompagnement et de formation à l'entrepreneuriat qu'on fait en partenariat avec l'université de Stanford, et qui est en fait le cours qui a été développé pour tout ce qui était start-up de l'économie non digitale nécessairement.
On a parlé tout à l'heure d'intrapreneuriat. Vous avez aussi, parce que c'est ça qui est formidable, Vinci, c'est une immense boîte. Vous devez avoir plein de profils qui ont envie de voler de leurs propres ailes et peut-être même aider leur boîte, en quelque sorte, en créant de nouveaux usages et de nouvelles startups.
Oui. Alors ça, c'est le premier programme qu'on a créé. Donc Léonard s'est structuré autour de ça, avec une volonté, une compréhension très très rapidement, qu'on avait des talents en interne, que c'était des gens qui étaient proches du terrain, qu'ils avaient des idées.
Et qui avaient cette fibre entrepreneuriale et qu'il fallait leur donner un peu d'oxygène.
Exactement. Et donc là, on a un accompagnement qui ressemble à celui qu'on fait avec les startups, et sur lequel on se retrouve à avoir des gens qui peuvent commencer dans n'importe quel rôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un an d'ancienneté ou 15 ans d'ancienneté, et se retrouver chef d'entreprise en interne, sur un projet. Je vais donner juste un exemple, si j'ai 30 secondes,
bien sûr.
Qui s'appelle un exemple, parce que c'est celui qu'on a fait de la première promo et qui marche très bien. C'est une boîte qui s'appelle Waste Marketplace.
Et bon, ça, encore une marketplace.
Tout est dans le nom. C'est une mise en relation entre cette fois les chantiers et cette fois les gestionnaires de déchets et les recycleurs, pour ne pas avoir des relations qui sont juste bilatérales par défaut, mais vraiment un processus de bidding, une optimisation. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes d'un point de vue purement financier et opérationnel, mais ce sont aussi des choses qui sont maintenant quasiment obligatoires du fait de la loi sur l'économie circulaire. Donc tout ça se rencontre, tout ça se rencontre dans ces innovations.
Voilà, pour candidater, vous avez jusqu'au 30 septembre 2022, novembre, comité de sélection, et puis janvier 2023, c'est parti avec ce programme.
Voilà, donc pour candidater, c'est leonard.vinci.com.
Voilà. Merci beaucoup Guillaume.
Je vous
souhaite plein de bons profils et plein de bonnes innovations dans ce domaine. Vous êtes responsable des programmes start-up et entrepreneur de Léonard. Vous restez avec nous, Tech & Co. 20h30, on retrouve dans un instant Faiza Younsi pour le Flash Echo. Et puis bien sûr, on sera de retour. Tech & Co, on est là chaque soir du lundi au jeudi en direct. Radio télé, 20h-22h. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et j'accueille donc Charlotte Mardon. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Tech & Co. Vous êtes
Merci
la cofondatrice et directrice générale de l'application One Second. C'est comme ça qu'on prononce déjà.
Oui, parfait.
Voilà. One Second, la seconde main, c'est un marché qui explose. On les voit investir collectifs, vite tête de bon coin, sont tous sur ce domaine-là. Vous, vous innovez parce que déjà vous connaissez ce milieu-là. Vous avez travaillé chez VP, anciennement vente privée, mais aussi chez Vestiaire Collective. Et vous avez donc lancé, je crois, One Second au début de cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment des utilisateurs peuvent utiliser ce que vous avez mis en place?
Oui, bien sûr. Alors One Second, c'est une nouvelle expérience de shopping de mode de seconde main. Donc c'est une application qui permet de trouver et d'acheter des vêtements à partir de visuels, à partir de photos, donc pour simplifier vraiment l'expérience de recherche.
Expliquez-nous. J'ai mon appareil, c'est une appli, One Second, ou c'est aujourd'hui d'une web app? Comment ça marche?
C'est une application mobile que vous pouvez retrouver du coup sur les stores Android et iOS.
Les stores iOS,
tout à fait. Et aussi, on a lancé un site web, donc qui vous permet aussi de profiter de l'expérience qu'on propose sur des stops.
Alors, donnez-nous un exemple. Je trouve, un sac, une robe, quelque chose qui me plaît. Voilà. Je photographie. En fait, je vais scanner en quelque sorte avec mon smartphone. Comment ça marche ? Expliquez-nous.
Alors, plusieurs cas d'usage. Déjà, vous avez repéré peut-être chez quelqu'un sur le plateau, quelqu'un, un haut que vous aimez bien. Donc, vous pouvez prendre une photo vraiment en live. Et l'application vous proposera des articles qui ressemblent à cette photo que vous avez pu prendre en live avec l'application, avec des critères évidemment que vous pourrez ajouter de taille, de matière, de choses en plus que l'algorithme ne peut pas percevoir.
Charlotte, je prends l'exemple de votre très belle chemise en jean, par exemple.
Merci.
Voilà, je la trouve cool, j'ai envie de l'offrir à quelqu'un. Je la photographie, et donc là, vos algos vont me trouver sur des sites partenaires, j'imagine, c'est ça, pour qu'on comprenne bien, hein, des chemises similaires à ce que vous portez.
Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, on référence près d'un million d'articles de mode de seconde main femmes, pour commencer. Il fallait commencer quelque part. Et on va retrouver parmi, du coup, ces catalogues, parmi ces références qu'on propose, des articles similaires avec, du coup, les articles les plus proches, donc avec un système de score où on va pousser les meilleurs résultats pour que vous puissiez trouver quelque chose au plus proche de ce que vous recherchez. Et ça, c'est la fonction de recherche visuelle en live, mais ça peut aussi être des screenshots, ça peut être des photos que vous importez de votre galerie. Donc c'est tout type de visuel finalement que vous pouvez importer dans l'application.
Seuls 10% des vêtements et accessoires de prêt-à-porter sont aujourd'hui achetés d'occasion.
Oui,
c'est vraiment ridicule.
C'est très peu, effectivement. Il y a encore un long chemin à parcourir pour profiter finalement de tout ce qui a été produit ces dernières décennies, parce qu'on a produit déjà beaucoup, beaucoup trop de vêtements. Oui. Ces dernières décennies, près de 100 milliards de vêtements par an sont produits. C'est deux fois plus, l'année dernière, c'est deux fois plus que dans les années 2000. Donc c'est énorme. On n'a clairement pas besoin d'autant de vêtements. Et d'ailleurs, on voit que on retrouve dans les garde-robes des gens, environ 70% des articles qui ne sont pas portés. Donc il y a clairement un potentiel de la mode de seconde main qui est énorme. Et aujourd'hui, il y a un décalage finalement entre la volonté d'acheter plus responsable, d'éventuellement acheter de la seconde main, et ce qui est vraiment fait, les pratiques, et notamment parce qu'en termes d'outils, ça a bien progressé ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour faciliter et fluidifier en fait l'expérience de recherche et l'expérience d'achat. Et donc nous, on veut vraiment agir là-dessus pour simplifier un maximum l'expérience.
Il faut savoir que l'industrie de la mode est très polluante, hein. Bon, comme beaucoup d'industries aussi, hein, plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la mode sont liées à la production des articles. Voilà, c'est vrai que voilà, ça nécessite le coton, nécessite beaucoup d'eau, par exemple. Enfin voilà, et puis après il y a le transport, j'imagine, qui doit être compris dans tout cela. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les partenaires qui vous suivent ? Parce que on reprend l'exemple de votre chemise, je la photographie, je vais aller sur un site de seconde main qui va essayer de me trouver. En fait, je vais essayer de trouver cette chemise similaire sur des sites partenaires de seconde main. C'est bien ça, hein, que vous proposez ?
Oui, nous, on a la volonté d'agréger un maximum de l'offre de seconde main disponible pour que les personnes puissent retrouver justement des offres au plus proche de ce qu'elles recherchent. Et aujourd'hui, en partenariat, donc on a notamment Vestiaire Collective, eBay, pour en citer des connus, et on est en discussion avec d'autres pour intégrer toujours plus de références, toujours plus de partenaires pour proposer justement cette possibilité de retrouver en un endroit un maximum de l'offre disponible.
L'idée, c'est que vous ayez un maximum de partenaires. Tout à l'heure, je citais Le Bon Coin, Vinted, etc. On peut imaginer aussi que demain, ils s'associent à votre solution.
Tout à fait. On commence avec certains avec lesquels on a envie de commencer quand même avec de la seconde main aussi de particulièrement bonne qualité. Donc on choisira aussi certains partenaires.
Oui, bien sûr.
Mais évidemment, c'est une idée.
Aujourd'hui, les algos vont jusqu'où, en fait, dans la reconnaissance des habits? Est-ce qu'on peut avoir un matching à 100%? Je sais pas, moi, par exemple, votre robe, c'est une Calvin, enfin, votre chemise, c'est une Calvin Klein. Est-ce qu'il peut retrouver exactement la même? Ou est-ce que ça va être de l'à peu près? Il y a des progrès qui sont faits dans les algos, justement, de reconnaissance, là, sur ce sujet.
Tout à fait. Alors, on peut retomber sur vraiment le même article, ça arrive, sur des articles qui ont quand même été assez produits pour qu'ils puissent se retrouver finalement.
Oui, qui ont une empreinte, on va dire, importante.
Voilà, donc de la fast fashion aussi, ou alors des marques qui sont bien connues. Donc, parfois, on retombe sur le même. Sinon, l'algorithme va quand même assez finement pouvoir détecter, au-delà du motif, la forme d'un col. Des choses qu'on n'aurait pas forcément réussi à décrire facilement, ou en tout cas tout le monde, avec des mots. Donc un col bateau, un col camionneur, des choses que l'algorithme lui va percevoir aussi. Et c'est quelque chose quand même d'assez fin. Et plus on aura de références aussi, et plus on pourra aussi proposer des recommandations toujours plus fines à nos utilisateurs.
Bien sûr, et puis j'imagine en plus que ces algos, elles prennent perpétuellement, etc. Enfin, voilà, c'est de l'IA. Quel est votre modèle économique? Comment vous allez gagner de l'argent là-dessus?
Alors, le fait de
la mise en relation, on va dire, entre vous et le client et vente privée ou vestiaire collective?
Oui, aujourd'hui, on touche des commissions sur les ventes de nos parts qui sont effectuées chez nos plateformes partenaires. Et l'idée, c'est effectivement de continuer dans cette démarche-là, à fonctionner de cette façon-là. Et d'envisager après aussi d'autres modes de rémunération et d'envisager à terme aussi également de proposer aux gens de vendre directement aussi sur OneSecond. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais aujourd'hui c'est de la commission sur les ventes.
Très bien. Et vous êtes combien à travailler chez OneSecond depuis quelques mois ?
On est deux. Donc j'ai un associé avec un profil tech à mes côtés.
D'accord. Ouais, c'est lui le...
Qui a codé l'application.
Voilà, et voilà. Et vous êtes là ce soir sur le plateau pour présenter tout ça. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci à vous.
Voilà, OneSecond pour tous ceux qui sont fashion. Why not? Pourquoi pas? Co-fondatrice et directrice générale de l'application, donc OneSecond, disponible depuis quelques mois. Vous restez avec nous, Tech & Co, la suite avec comme prochain invité Béranger Cadoret, c'est le directeur général de Stratosphère. On va parler de cloud, mais de cloud, on va dire propre, en tout cas le plus propre possible. Et c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, le président de la French Tech Bretagne. A tout de suite, Tech & Co revient dans un instant.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. On va prendre de l'altitude avec Stratosphère. Et oui, celle-là, Béranger, on a dû vous la faire quelques fois. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, François.
Béranger Cadoret, directeur général et fondateur de Stratosphère. Et vous êtes un réseau de data centers locaux à impact positif, en fait. Vous faites du cloud et vous essayez de le faire le plus propre possible. Déjà, quand vous est venue cette idée, comment vous est-elle venue?
Tout à fait. Alors aujourd'hui, Stratosphère, c'est donc le premier réseau de data center de proximité bas carbone en France. Et donc cette idée est venue à partir de trois principaux constats. Le premier, évidemment, qui est l'écologie, de se dire que depuis maintenant quelques années, la pollution numérique est un réel sujet au sein même des entreprises, du gouvernement et jusqu'à l'Europe. Donc aujourd'hui, 4% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du numérique. Ensuite, on a le second sujet qui est celui de la souveraineté. Aujourd'hui, on a quand même 92% des données qui sont produites en Europe qui sont stockées aux États-Unis. Ouais. Donc on a également de réels enjeux liés...
Amazon, Microsoft, Google...
Tout à fait, exactement. Liés donc à la souveraineté de nos données. Et enfin, donc, celle de la sécurité et surtout de l'expansion de la croissance de la donnée qui aujourd'hui est absolument phénoménale, exponentielle, et qui va ne faire qu'accélérer de par les nouvelles technologies.
Ça va être un problème, d'ailleurs, non ? Cette augmentation exponentielle des données.
Tout à fait. Alors, Le problème, on peut le résoudre, c'est surtout qu'un nouveau modèle de différentes solutions doivent voir le jour pour permettre continuellement de pouvoir justement distribuer autant de données.
Alors vous avez été créé en 2020 et vous lancez ce premier réseau donc cette année de data centers locaux à impact positif. Comment ça marche? Comment fait-on des data centers à impact positif?
Alors aujourd'hui, l'écologie, évidemment, c'est le cœur de notre modèle économique, de notre stratégie. On a commencé par travailler sur la construction de nos bâtiments et de dire que demain, on pouvait déjà proposer une alternative à l'encontre des hyperscalers, donc des gros data centers, des gros centres de données, qui permet déjà de réduire l'empreinte environnementale et donc l'apport d'énergie. Donc aujourd'hui, nous, la construction, on travaille sur des modèles qui sont donc évidemment modulaires et très facilement scalables, duplicables grâce à des conteneurs réhabilités qui sont donc positionnés sur des plots béton par exemple. Donc là, on a une priorité aussi sur l'artificialisation des sols, hein, qui vient de la loi climat et résilience notamment. Donc le second point, c'est celui justement sur l'alimentation des data centers, pour se dire qu'avec un petit modèle, on pouvait s'autosuffire en termes d'énergie renouvelable.
Photovoltaïque notamment, on le voit, enfin si vous êtes avec nous à la télé, on
exactement.
Voit les toits qui sont recouverts de panneaux photovoltaïques.
Exactement.
Et ça suffit à alimenter des data centers ?
Tout à fait. On a aujourd'hui sur le modèle, donc notre data center, nous, il va être sur 80 mètres carrés au sol. Et on va avoir par exemple une ombrière solaire de 200 mètres carrés avec 105 panneaux solaires qui vont nous permettre donc d'alimenter ce data center-là. Donc sur la partie alimentation. Et ensuite, c'est vraiment l'innovation chez Stratosphere, c'est vraiment d'intégrer le data center aussi au cœur d'une économie circulaire locale, de par notamment la valorisation de la chaleur fatale, que nous, on va pouvoir valoriser par exemple pour des cultures de serres urbaines, où là, on a également le volet inclusif pour le territoire.
C'est-à-dire les agriculteurs arrivent à récupérer la chaleur émise par les ordis, enfin les serveurs, pour justement faire pousser des plantes, des fruits, des légumes.
Tout à fait. Alors ceux à qui on s'adresse, ce sont des associations, des jeunes entrepreneurs qui vont, eux justement, qui développent. Alors on n'est pas sur des maraîchers parce qu'on n'est pas sur des serres de 10 000 mètres carrés. On est sur des serres de 40 à 60 mètres carrés pour vraiment essayer de développer autour, par exemple, de production de que ce soit de sécheurs d'algues. On a aussi de sécheurs de houblon, etc. Pour permettre aussi d'avoir ce côté inclusif et attractif pour le territoire.
Ça coûte plus cher, j'imagine, qu'une offre cloud traditionnelle.
Tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, on a pu déterminer qu'en ayant des propositions de valeur, déjà d'une qui soit d'être transparent, qui soit aussi qui crée de fortes promesses, pouvait aussi nous permettre, évidemment, du coup, indéniablement, d'avoir des produits, des prix en tout cas, plus importants que ceux de nos potentiels concurrents.
Oui, mais malgré tout, est-ce que les entreprises sont prêtes à payer plus cher, mais à avoir cette notion? Cette volonté de moins polluer.
Alors depuis quelques années, on remarque vraiment un changement de mentalité au sein des entreprises, notamment sur les stratégies RSE qui évoluent de plus en plus au sein de PME, dans le monde aussi industriel. On a également un volet, par exemple, ça c'est également la loi du 15 novembre 2021, le RIN, hein, qui est la réduction d'empreinte environnementale du numérique, et qui donne donc une échéance au 1er janvier 2023 pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants à avoir une stratégie RSE et un numérique responsable au sein de leurs infrastructures. Donc à partir de là, nous on apporte les arguments qui aujourd'hui justement vont leur permettre de pouvoir donc répondre à leurs objectifs et leurs besoins.
Et puis ça peut être aussi un atout commercial pour ces entreprises.
Complètement.
Communiquer sur un cloud propre et en tout cas à zéro impact ou en tout cas avoir un impact minime, c'est
tout à fait
commercial.
Et exactement. Ça permet également de valoriser leurs propres offres et pour leurs clients.
Ça s'appelle donc Stratosphere, si vous voulez découvrir tout ça, F-A-I-R.
C'est ça, hein, exactement.
Et Béranger, alors juste un mot, parce que vous êtes aussi, alors vous êtes ingénieur informatique de formation, expert en infrastructure, c'est pour ça, hein, on voit que tout ça, c'est votre bébé, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, tout à fait.
La manière dont vous en parlez, on le voit tout de suite.
exactement.
C'est cool. Mais vous êtes aussi un tout jeune président de la French Tech. La French Tech Bretagne,
c'est ça.
Juste un mot là-dessus, parce que le temps tourne, mais on aura peut-être d'autres occasions d'en parler. La French Tech Bretagne, aujourd'hui, ça représente... vous avez des chiffres à nous donner, en tout cas?
Oui. Alors aujourd'hui, en Bretagne, on a trois grandes... on va avoir des capitales de French Tech. Hein, on va avoir celles qui sont en Nord-Bretagne. Moi, je suis donc la présidente de la French Tech Bretagne Sud, où aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de start-up. Et c'est aussi, pour moi, le moyen aussi d'informer que dans le monde plutôt rural, en tout cas en Bretagne et bien dans bien d'autres régions, on peut avoir aussi de belles pépites, de belles entreprises et surtout créer une forte communauté qui vont pouvoir permettre de fédérer autour de toute l'attractivité qu'on a au sein de la French Tech. En règle générale et sur tout le territoire national.
Voilà, on reparlera de la French Tech Bretagne, c'est promis. Merci beaucoup Béranger Caron.
Merci à vous.
Cadoré,
merci.
Directeur général et fondateur donc de Stratosphere. Allez, direction New York, puisque, écoutez, c'est la nouvelle saison de Tech & Co. Forcément, on ne pouvait pas ne pas avoir chaque soir Sabrina, ça c'est pas possible.
Tech & Co. What's up New York?
Bonsoir Sabrina, je suis ravi de te retrouver.
Quel plaisir, François, de te retrouver également.
Ben oui, avec une nouvelle saison de Tech & Co. Et vous le savez, Sabrina est là chaque soir pour être notre vigie des US. Alors, on parle beaucoup des US sans Sabrina, mais elle est sur place, Sabrina. C'est ça qui est formidable. Et elle nous tient au courant de toute l'actualité, à la fois économique, financière, mais technologique. Et ce soir, Sabrina, tu vas nous parler d'Amazon. On a évoqué le sujet tout à l'heure avec Frédéric. Amazon qui serait intéressé par le rachat de Signify Health pour justement se renforcer dans ce domaine de la santé qui est convoité en fait par tous ces géants de l'Internet aujourd'hui. On le voit, hein.
Oui, effectivement, c'est un secteur qui est très très chaud là. Signify Health, c'est une société qui est en fait basée à Dallas. Ça change un petit peu. C'est une plateforme qui permet de fournir des soins à domicile. Alors parmi les clients, on retrouve tous les professionnels de la santé, médecins, assureurs. L'entreprise travaille notamment avec Medicare, d'autres organismes de soins gérés par le gouvernement américain. D'où l'intérêt. Signify qui s'est introduite en bourse en fait il y a pas longtemps, hein, seulement 18 mois. Eh bien, elle s'est mise en vente récemment dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait permettre à sa valorisation d'atteindre les 8 milliards de dollars. On en est aujourd'hui à 5 milliards de dollars, joli bon. Le conseil d'administration se réunit aujourd'hui pour discuter des offres qui ont été faites. La deadline pour se manifester a été fixée à la première semaine de septembre. Il y a encore un tout petit peu de temps de ce côté-là. Alors, parmi les candidats à la reprise, il y a le géant américain de la pharmacie, à savoir CVS. Il y a aussi OptionCare, alors qui est détenu par le grand concurrent de CVS, à savoir Walgreens. Il y a l'assureur santé United Health qui est également sur les rangs. Et puis donc dernière en date là, Amazon, selon la presse américaine, il s'agirait en plus de la deuxième acquisition dans ce secteur en 2 mois pour Amazon. Alors, le mois dernier, souvenez-vous, le groupe avait déboursé 3,9 milliards de dollars pour s'offrir One Medical, hein, c'est une sorte de Netflix de la santé. Rappelons que CVS avait d'ailleurs avait également des vues sur One Medical. Du coup là, ça ferait deux coups de suite. Grosse déception de ce côté-là. Et c'est pas tout, hein, puisque pour revenir à Amazon, en 2019, Amazon avait aussi racheté une start-up de télémédecine et puis aussi lancé Amazon Care, service de téléconsultation pour les entreprises, service disponible aux États-Unis. Alors rien n'est encore gagné pour Amazon, puisque pour le moment, selon l'agence Bloomberg en tout cas, United Health aurait fait une offre, l'offre la plus généreuse, $30 par action. Alors Amazon n'est pas très très loin derrière, toujours selon la presse américaine. Il y a des problèmes antitrust aussi à prendre en compte, donc c'est pas gagné. Toutes les parties intéressées ont jusqu'au 6 septembre très précisément pour finaliser leur offre. L'agence Bloomberg précise également que Signify pourrait aussi finalement décider de rester indépendant. Rien n'est donc joué, mais en tout cas en bourse, ça profite clairement au titre Signify qui est en hausse, en forte progression, hein, puisqu'on prend plus de 30% actuellement. C'est la plus forte progression de l'histoire de cette société. Donc un dossier bien sûr qui est à surveiller, François.
Sabrina, un petit chèque de la part d'eBay pour TCG Player, un petit chèque de 295 millions de dollars. Eh bien voilà, eBay s'offre donc cette plateforme technologique qui plaît beaucoup aux amateurs de jeux de cartes à collectionner, je crois, hein. C'est l'actu du jour.
Oui, exactement. Là aussi, autre actualité au chapitre fusion-acquisition. Alors, tout autre secteur, bien sûr, hein, tu l'as dit. TCG Player, c'est une société là qui est basée à Syracuse, dans l'état de New York, pas très loin. C'est une marketplace pour les fans de jeux de cartes à collectionner. Le montant, oui, 295 millions de dollars. C'est une société qui a été fondée en 2008. Quelques années, là, une société qui est passée d'ailleurs d'une petite boutique, hein, pour les passionnés physiques de cartes à collectionner à cette plateforme donc de e-commerce, hein, l'une des plus importantes de ce secteur, un secteur niche, hein, bien sûr. Elle emploie quand même aujourd'hui environ 600 personnes, une acquisition qui complète la stratégie de catégorie ciblée d'eBay et qui renforce l'engagement de l'IB envers les passionnés de cartes à collectionner. Ça fait plusieurs années maintenant que la société est présente dans ce secteur niche et qu'elle fait tout pour s'aligner, solidifier sa position. Ça fait 2 ans d'ailleurs qu'elle avait vraiment, elle a appuyé sur l'accélérateur. En janvier, elle avait ainsi étendu son service d'authentification pour toutes les cartes à collectionner dont la valeur est supérieure à 750 $. Alors, le eBay précise que la catégorie croît plus rapidement que l'ensemble de sa marketplace. C'était 2 milliards de dollars de transactions sur la première moitié, François, de 2021, soit l'équivalent de l'intégralité des transactions sur cette catégorie sur l'année 2020. Alors, on verra bien sûr si cette tendance se confirme avec les chiffres plus récents de 2022. En tout cas, eBay a décidément mis le pied sur l'accélérateur en termes d'acquisition, puisque parce que aussi c'est un climat qui est assez compliqué, beaucoup plus de compétition, la concurrence de Facebook Marketplace bien sûr. Il y a deux mois, eBay avait mis la main sur la marketplace de NFT Non Origin. Le montant n'avait pas été dévoilé, mais en tout cas, eBay là clairement très très actif en ce moment, à surveiller donc là aussi.
Merci beaucoup Sabrina. Voilà, c'était l'actu de ce jour vu par Sabrina Cagliosi depuis New York. Merci, à demain Sabrina, bonne soirée. Et vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant, bientôt 21h, avec au sommaire pour notre deuxième partie. Eh bien, puisque c'est le retour de Tech & Co et c'est le premier de la saison, on va vous proposer un grand débrief de l'actu tech de l'été et on va revenir évidemment sur l'actu star de ces dernières semaines. Twitter et Elon Musk, bien évidemment, entre autres, on en parle avec nos experts qui nous rejoignent dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Un peu de silence sur ce plateau, s'il vous plaît. Nous sommes à l'antenne, messieurs, dames. Enfin, c'est parti donc pour le grand débrief de l'actu tech de ce lundi 22 août. Merci d'être avec nous. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Peut-être êtes-vous encore en vacances. Peut-être grappillez-vous quelques heures, quelques jours encore. Vous avez bien raison, profitez-en. Nous, ce n'est plus notre cas. Avec pour le grand débrief de l'actu tech ce soir, Elsa Bambaron qui est là. Bonsoir Elsa. Quel plaisir de te retrouver, Elsa. Alors, je te tutoie parce que ça fait des années qu'on se côtoie. Elsa, qui est journaliste tech au Figaro. À ses côtés, c'est Guillaume qui est là. Bonsoir, Guillaume. Ça va, François? Journaliste au Point, bien évidemment. Vous connaissez Guillaume Gralet. On a un problème de micro, visiblement, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va parler. Vous inquiétez pas. Et puis, Frédéric Simotel, qui, lui, espérons-le, n'a pas de problème de micro. 1-2-1-2, micro.
1-2, ça marche.
Ça marche. Et Christophe Olnet est avec nous aussi. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Senior Advisor chez Apax Partners. On avait terminé la saison ensemble.
Exactement.
Et bien, on la recommence ensemble, Christophe. Voilà, c'est plutôt cool. Il y avait Guillaume aussi, je crois, pour la dernière. C'était mi-juillet. L'actualité, donc, de cet été. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu pas mal de choses. On va parler forcément de Tesla. On va parler aussi de streaming avec la bataille Netflix et Disney. Il y a pas mal de choses aussi. Zuckerberg qui lance son Horizon Worlds en France. C'est assez intéressant, ça. Mais pour débuter, bien sûr, c'est Twitter. Ça n'en finit pas. Une histoire incroyable, vous le savez. Alors, un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Un jour, Elon Musk est prêt à débourser 44 milliards pour acheter Twitter. Après, il dit non. Ça devient assez complexe, cette histoire. Elsa, tu n'as jamais commenté, chez nous en tout cas, cette affaire Elon Musk-Twitter. Qu'est-ce que veut Elon Musk, à ton avis, dans cette histoire-là? Est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie, in fine, de racheter Twitter?
Moi, j'en doute. Mais on va dire, ouais, c'est super facile, tu aurais écrit l'histoire. Mais j'ai des preuves, parce que je l'ai dit au mois de juin, que tant que fallait pas toujours croire ce que racontait Elon Musk. Alors après, je veux pas tomber dans la théorie du complot, mais il y a plusieurs hypothèses à pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis. Hypothèse 1... Effectivement, il regarde les comptes de Twitter, il a accès à des documents qui ne sont pas publics normalement, mais auxquels il a accès du fait de l'OPA, et là il fait « Oups, bêtise, ce machin, en fait, ça vaut pas ce que j'allais mettre sur la table.
Ça sent pas si bon que ça, voilà. En fait.
Et puis, est-ce que j'ai besoin de racheter Twitter pour pouvoir écrire librement ce que je veux ? Non, puisque je peux le faire tout seul. Ça, c'est hypothèse 1, c'est celle, je vous le dis tout de suite, auquel je crois le moins.
Mais bon, il a quand même une sacrée vitrine, parce qu'on voit que Trump...
Il a pas besoin de racheter.
Oui, mais Trump n'est plus sur Twitter, il est sur son réseau social, mais il a un impact, on va dire, en communication qui est moindre.
Enfin, si tu permets, ça n'a aucun rapport avec le fait de racheter ou non Twitter, le fait d'avoir le droit de s'exprimer ou pas.
En effet, en effet, c'est vrai.
C'est juste une question politique après. Hypothèse 2, c'est une théorie un peu du complot de certains analystes financiers américains que j'adore, c'est qu'en fait il s'est aperçu que s'il voulait racheter Twitter, il fallait qu'il vende beaucoup d'actions Tesla, et c'est pas terrible parce que ça fait baisser le cours d'action Tesla.
Alors, il s'en était pas rendu compte
et
avant.
Et ça, il est encore plus parano, c'est que en fait, il avait envie de vendre des actions Tesla, il voulait pas le dire ouvertement, il a monté une action en faisant « Tiens, et si je disais au monde que je rachète Twitter ?» Et finalement, ça sert de fauner pour vendre. Il a vendu pour 15 milliards d'actions Tesla depuis qu'il a dit qu'il allait racheter Twitter. Et le truc est passé comme une lettre à la poste, enfin quand la poste fonctionnait, alors c'est sans faire baisser le cours de bourse de Tesla. Alors que s'il avait vendu pour 15 milliards d'actions Tesla, juste parce que Tesla non plus, peut-être que c'est... Enfin, Tesla, ça vaut autant que l'intégralité des constructeurs automobiles de la planète, et ça vaut vend pas autant de voitures que l'intégralité des constructeurs. Enfin, c'est peut-être légèrement survalorisé. Donc, c'est peut-être juste un moyen de sortir de Tesla. Et j'adore cette théorie.
Elle est pas mal. C'était l'hypothèse 2. Tu en as une troisième ? Ou on laisse parler de
notre
petit camarade ?
Non, elle est bien celle-là, non ?
Elle est bien.
Ouais, elle est bien.
Pas mal.
Hein.
Elle est un peu tordue, mais elle est bien.
Ouais, moi, j'aime bien l'analyste américain qui a sorti ça.
L'actualité du moment, Frédéric, parce que effectivement, c'est un épisode, hein, cette histoire-là. On le sait... Le problème, c'est qu'Elon Musk dit, ben voilà, moi j'achète des centaines de millions de comptes Twitter, c'est ça qui a la valeur, sauf que vous mentez, vous chez Twitter, il y en a beaucoup qui n'existent pas, ce sont des comptes fantômes, ce sont des robots, et j'aimerais connaître véritablement, enlevez-moi le gras, quoi. Je veux garder le muscle dans cette histoire-là. C'est ça. Et il se bat depuis des mois auprès des dirigeants de Twitter pour savoir effectivement, tu me coupes si j'ai une bêtise, hein, mais pour savoir ce qu'il achète.
Oui, mais en sachant qu'il le saura jamais, parce que même est-ce que les gens de Twitter le savent aussi le nombre de comptes ?
C'est une bonne question.
Parce que c'est assez compliqué de trouver des comptes qui sont des robots, des comptes qui sont des faux comptes, des comptes quelqu'un in situ personné qui a créé 6 ou 7 comptes. Est-ce que il y a quand même quelqu'un derrière, mais est-ce que il s'en sert différemment ? Enfin voilà, il y a tout un tas de d'éléments. Donc je pense que oui, il veut quand même enlever un peu le gras, parce qu'il y a du gras, et on le voit beaucoup sur les influenceurs et tout ça, qui achètent des audiences. Donc là, c'est certain qu'il y a des choses à voir. Après, les dernières infos, c'est quoi? Alors, il a revendu effectivement une partie de ses actions en disant, tiens, je peux préparer peut-être à payer l'amende, c'est ce que certains disaient. On lui a posé la question aussi pourquoi, les autorités américaines n'enquêtent pas non plus sur les fausses annonces ou des faux comptes Twitter, des fausses affirmations de Twitter, et dit allez leur demander. Et puis là on voit il est là sa position, elle est, alors il y a un procès qui va se mettre en place à partir du mois d'octobre, et là je pense qu'il est en pleine négociation, il est en train de négocier avec eux, de voir, il a dit moi je suis prêt à mettre 44 milliards, prouvez-moi que les comptes sont juges, enfin que tous les chiffres sont très clairs. Ça sera jamais prouvé. Donc, pour moi, il est en train de négocier le truc. Et puis, pour l'avoir moins cher.
Donc là.
Je pense que il veut quand même l'acheter.
Il veut quand même l'acheter.
Ouais, pour avoir appelé des gens qui le connaissent un peu, ils disent qu'il est quand même un petit peu.
Alors, on va avoir le point de vue de Guillaume dans un instant, mais je donne la parole à Guillaume.
Juste rajouter le fait qu'il porte quand même des accusations très graves vers des dirigeants de sociétés cotées, en mettant en doute le nombre de faux comptes, en disant que ce n'est pas moins de 5%, c'est plus de 10%. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité des chiffres auxquels il a eu accès, mais ce qui est sûr, ce sont des accusations
très graves. En abîmant l'image de Twitter, parce que l'image de Twitter a été sacrément abîmée ces derniers temps.
Quoi qu'il se passe, notamment si l'affaire ne se fait pas, l'image de Twitter sera sérieusement dégradée, et peut-être même les dirigeants inquiétés. Donc pour aller dans le sens d'Elsa, on pourrait dire que ça aussi, ça contribuera à affaiblir fortement Twitter et peut-être l'amener à reconsidérer ses politiques vis-à-vis justement de la liberté d'expression.
Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gras, justement, comme le disait Frédéric sur Twitter? Est-ce qu'il y a énormément de faux comptes ou de comptes dormants? On doit quand même savoir l'audience de Twitter. Enfin, je veux dire, les algos de Twitter, il y a bien un gars qui a la console principale et qui sait quel type de comptes sont actifs, comment ils le sont. Non, Christophe ou Guillaume?
Ouais, en fait, ce qui est assez marrant ici, c'est que on l'a déjà vu avec Elon Musk, qui se frotte au mur de la réalité. C'est-à-dire, on le voit un peu de manière parallèle avec une autre actualité, ce qu'il essaye de faire avec Neuralink, donc l'entreprise qu'il a co-créée. Il reste très peu de membres fondateurs. C'est pour faire très rapidement la volonté d'implanter une puce dans notre cerveau pour que, à terme, on puisse être guéri de certaines maladies, Alzheimer par exemple, mais également être en mesure de rivaliser avec l'intelligence artificielle.
Tout à fait.
On voit bien qu'avec
redonner par exemple l'usage de ces jambes à des personnes qui sont handicapées.
Voilà. Donc la promesse est très belle.
C'est formidable, mais en fait, d'ailleurs.
Pour parler avec certains chercheurs avec qui ils travaillent, ils se rendent compte que la réalité est beaucoup plus difficile que ce qu'ils imaginaient, parce que il a quand même réussi des choses assez formidables, il est génial, mais il peut être extrêmement violent. On l'a vu dans les accusations qu'il a portées à l'actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal. Il l'a comparé à Staline. Et là, il voit que c'est un peu plus difficile. Alors, il voit que c'est difficile pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, le vent de la tech a véritablement tourné au cours des derniers mois. On voit une véritable crise dans la technologie actuellement. Alors, on le voit à travers la valorisation de Tesla qui a extrêmement baissé. Beaucoup de licenciements en ce moment dans la tech. Il voit que ça va être un peu plus difficile. Oui. Il a esquissé un nouveau business model pour Twitter en disant que Twitter serait payant pour certains services, qu'on pourrait modérer, ça c'est la promesse qui est assez sympa, certains tweets après les avoir écrits, tout ça c'est très sympa, mais il se rend compte ça va être un peu plus difficile, ce sera pas forcément une cash machine, et c'est pour ça qu'il réfléchit peut-être un peu en ce moment, je pense.
Oui, et puis en plus, comme tu le disais, comme toutes les valeurs tech s'effondrent, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, ça veut dire qu'aujourd'hui Twitter ne vaut plus 44 milliards, on est d'accord.
Non, et puis sa précédente amitié, c'est-à-dire Tesla, que ce soit Tesla ou SpaceX, il avait la main sur le développement et sur de l'innovation qu'il a amélioré, alors qu'il a amélioré de différentes façons, dans la chaîne logistique, les réacteurs qui reviennent sur Terre, enfin voilà, et puis la partie électrique, il a cru à fond sur l'électrique. Là, ce que tu dis est juste, sur Neuralink, on est dans un truc complètement nouveau. Et là, c'est pas lui qui est forcément en cause, hein. Tous ceux qui travaillent autour de ça ont du mal à maîtriser ça. Et Twitter, il le maîtrise pas non plus parce qu'il a pas la main non plus dans tout le code de début. Donc c'est un peu, là, il est dans deux univers qui sont un peu différents. D'ailleurs, on l'avait vu sur The Boring Company, là, quand il allait vous faire cette Hyperloop. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique, là, qui est sortie cet été, comme quoi c'était pour faire tomber le TGV californien. Mais là aussi, il a su qu'il maîtrisait pas. Il a dit, attendez, je lance le projet. Maintenant, qu'il y ait des sociétés qui travaillent dessus. Donc voilà, là, avec Twitter et avec Neuralink, on voit deux choses qu'il ne maîtrise pas complètement et qui sont en rupture. Enfin, pour Neuralink, c'est rupture assez forte. Et pour Twitter, il n'a pas la main sous le capot, quoi. C'est une chose qu'il a beaucoup plus dans les deux autres
domaines. On s'est posé la question plusieurs fois. Pourquoi n'a-t-il pas eu le réflexe, avant de se lancer dans cet achat, de poser les bonnes questions et de mener un audit, en quelque sorte?
Parce qu'il n'avait pas accès au compte.
Ouais.
Oui, mais enfin, c'est Elon Musk. Je pense quand même qu'il doit avoir deux, trois informations un peu confidentielles que nous n'avons pas. Enfin, c'est bizarre. On a l'impression que d'un coup, il se rend compte d'un truc qui était évident. On savait qu'il y avait des faux comptes sur Twitter depuis des années, en fait. Et là, d'un coup, il se dit, tiens, il y en a beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Non ?
Je ne suis pas sûre que les documents publics lui ont permis d'avoir... on regarde tous les comptes de Twitter quand Twitter publie. Sans être auditeur, ça ne saute pas aux yeux. Donc, il y a des documents qui ne sont pas publics, auxquels il a peut-être eu accès. Après, quelle est la part de mauvaise foi de l'individu dans le pinaillage sur les chiffres, on ne sait pas. Et c'est quoi un faux compte ? Comment on distingue un faux compte d'un compte dormant ? Il y a des vrais faux comptes et des faux vrais comptes. C'est quand même un peu le beans là-dedans.
Je pense qu'il avait une idée sur le business model. Il s'est dit, attends, c'est un truc qui pourrait rapporter beaucoup plus. Et j'ai peut-être deux, trois idées de martingale, mais par contre, il faut que j'ai la main sur la boîte. Et c'est là où, quand il ouvre, il dit,
quand même. C'est un peu la pagaille. Avant
d'acheter ça, avec toutes les idées que j'ai à mettre en place, c'est un peu la pagaille. Mais je pense qu'il avait une idée du.
Non, mais ne serait-ce que sur la correction des tweets. quand il s'est dit, bon, bah, quand on fait une erreur sur un tweet, on va pouvoir le post-modérer. Et en fait, il s'aperçoit que post-modérer un tweet, ça veut dire qu'il y a des réactions qui deviennent inappropriées par rapport au tweet d'origine.
Ça annule les retweets précédents ou les likes.
C'est un, rien que ça, c'est un bins incommensurable.
Un bins.
C'est pas mal, un bins. C'est beau, un bins.
Oui, Guillaume.
C'est beau. Non, mais en tout cas, non, c'est vrai qu'on est vraiment dans le paradoxe Musk, c'est-à-dire que le mec nous impressionne, il est capable de toutes les folies, mais il pense lui-même qu'il n'a pas de limites. Et là, il se rend compte, eh bien, effectivement, je pense que moi, il y a une enquête pendant toute cette affaire Twitter qui m'a marqué, qui a été sortie par le New York Times, qui a montré à quel point il a peut-être été influencé par tous ses copains, notamment de la PayPal Mafia, en termes de liberté d'expression. Ouais. Il faut se souvenir qu'effectivement, Trump a dit, bah, moi, j'ai pas le droit de pouvoir m'exprimer. Et on est vraiment dans le paradoxe des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous les modérez pas, eh bien, ça crée des bulles, ça crée de la polarisation. Et puis, en même temps, si vous les modérez trop, eh bien, ils ne remplissent pas du tout leur rôle premier de liberté d'expression et d'instantanéité.
Bien. Christophe, le mot de la fin sur cette histoire.
Il est possible aussi, comme le disait Elsa, qu'en cours de route, se rendant compte de l'impasse dans laquelle il était, il ait pu avoir cette, finalement faire passer ses ventes d'actions Tesla sous le radar, sans avoir finalement, comme vous le disiez, impacté le cours. Et alors, est-ce que c'était pensé dès le début ou disons une réaction intelligente face à une problématique et en faire une opportunité, c'est possible aussi.
Ouais. Mais quand on regarde le timing du lancement de rachat, ça correspond un peu à ce choc démocratique, je ne sais pas s'il faut employer ce terme démocratique, mais où on a vu des comptes de Donald Trump fermés, et c'est là où il s'est certainement posé la question. Alors, influencé ou pas, j'ai pas vu l'enquête du New York Times, mais influencé ou pas, sans doute, par toute la bande.
Tiens, un chiffre important quand même. Vous savez que le directeur général de Twitter a déclaré que l'entreprise, donc Twitter, suspendait 500 000 comptes de spam par jour.
Ouais.
Donc ça fait quand même du monde.
Il n'a pas dit 1 million ?
500 000 par jour.
Ouais.
Enfin, c'est 1 million. Ça fait beaucoup. On a terminé sur ce sujet. On a encore pas mal d'actu. Netflix et Disney qui commencent vraiment botter les fesses de Netflix, Disney. Est-ce que je peux dire ça ? On n'est pas loin en tout cas. Les chiffres commencent, les tendances commencent à s'inverser. On va aussi évoquer toute l'actualité du moment. On évoquait tout à l'heure aussi avec Frédéric Amazon qui serait intéressé par le rachat de Signify Health. On va en parler aussi. Vous restez avec nous. La suite de Tech & Co, c'est le premier débrief de cette saison 2022-2023 avec nos experts. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Une heure pour revenir sur toute l'actu tech de ces derniers jours, mais aussi de ces dernières semaines, puisque Tech & Co repart de plus belle pour cette nouvelle saison, et merci d'être là. On est en direct chaque soir, 20h-22h, radio-télé, mais aussi le podcast. Avec pour ce débrief, ce soir, Elsa Bombaron, journaliste au Figaro, Guillaume Grallet, journaliste tech au Point, Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus, et Christophe Holnet, senior advisor chez Apax Partners. On en parlait tout à l'heure, Sabrina Cagliosi en a remis une couche, mais j'aimerais avoir votre avis sur Amazon qui s'intéresse de plus en plus à la santé avec l'éventualité de ce rachat de Signify Health pour se renforcer dans ce domaine. Je le disais tout à l'heure avec Sabrina, vous savez que tous les géants aujourd'hui de américains s'intéressent à la santé de plus en plus parce que c'est un peu l'Eldorado, non Guillaume, on a l'impression.
Oui, c'est une des vieilles promesses de la Silicon Valley où sont nés énormément de géants de la tech, c'est de promettre un monde où tout sera possible, où il y aura l'immortalité. On se rappelle de la Singularity University qui a été co-créée par le co-créateur de Google. Ça a fait naître pas mal de grandes légendes, Ray Kurzweil notamment, qui joue toujours un rôle chez Google, qui pense qu'il va vivre 800 ans, je crois pas que ça sera le cas, on verra. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe.
Mais en tout cas, on parlera de lui, ça c'est certain.
Effectivement, on voit énormément de gens de la tech qui s'intéressent à la santé. Alors ça crée énormément. On voit bien que ce sont des données qui sont pas des données comme les autres, et ça crée énormément de craintes. En France, on a eu l'épisode du Health Data Hub avec hébergé en partie par Microsoft et qui crée énormément de soucis. Alors, dans le cas d'Amazon, c'est pas la première fois. Il y a eu des accords, des essais, notamment d'accords avec des assurances. Là, on voit qu'Amazon ne veut pas s'interdire ce secteur qui est extrêmement intéressant en termes d'innovation.
Qu'est-ce que c'est que Signify Health ? C'est quoi cette boîte ?
C'est une boîte qui veut utiliser l'intelligence artificielle, mais vas-y Christophe, si tu connais un peu mieux.
C'est une boîte qui en fait offre des solutions, notamment de visiteurs qui viennent faire passer des visites médicales à des personnes et qui en plus les mettent en compte et offrent. C'est hybride en fait. Il y a à la fois une visite physique et puis après il y a un abonnement à un certain nombre de services qui permettent d'avoir accès à des médecins, à des plateformes de soins.
D'accord.
Mais au-delà de ça, parce que
donc c'est typiquement américain, ce type de choses n'existe pas en France.
Ah, bien sûr,
ne peut pas exister en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même système de santé.
Par exemple, ils ont racheté une société qui s'appelle One Medical il y a un mois Amazon et qui se présente comme le Netflix de la santé où on a une sorte d'abonnement et qui permet d'avoir, c'est totalement privé et bien sûr c'est évidemment payé par les assurances privées. Mais au-delà de cette promesse à laquelle Guillaume faisait référence de l'immortalité etc. Aujourd'hui il y a énormément d'argent qui est dépensé dans la santé. Aux États-Unis c'est 18% du produit intérieur brut dans les dépenses de santé, le double quasiment de ce qu'on a en France et en Allemagne. Donc il y a énormément, énormément d'argent. Et donc, des solutions qui vont permettre de faire de la médecine préventive grâce à l'IA, c'est-à-dire grâce à les capteurs, vérifier qu'une personne peut être maintenue à domicile parce qu'on check tous les jours que son équilibre est correct.
Voilà.
Donc des actions de prévention, des actions de réduction de coûts énormes puisque l'hospitalisation est évitée et les personnes peuvent être maintenues à domicile. Donc c'est un secteur sur lequel il y a non seulement des promesses à long terme, mais il y a des gains et des efficacités à faire gagner, et elles sont énormes aux États-Unis. Et de ce point de vue, Amazon est assez bien placé.
Parce que le système de santé aux États-Unis coûte horriblement cher. Fred, je te donne la parole dans un instant, parce que Elsa a levé le doigt juste avant toi.
Non, tu disais, pas sûr que ça puisse marcher en France. En Europe, on commence à voir un switch quand même, de la médecine vers tout ce qui est télémédecine. Bon, il y a eu un gros coup, une grosse mise en avant avec le Covid, les téléconsultations qui commencent à être remboursées, les médecins qui commencent à obtenir des remboursements pour des suivis de données qui peuvent être collectées à domicile pour les patients. Une personne âgée qui doit suivre sa tension, plutôt que de la faire aller tous les jours ou faire venir un infirmier tous les jours, elle peut très bien relever sa tension à distance, soit toute seule, soit avec un tensiomètre connecté. Les données sont envoyées au médecin. Donc il y a tout un truc qui commence à se mettre en place aussi chez nous. Tout ce qui est médecine à distance, ça commence à être aussi vu comme une réponse aux déserts médicaux. Donc faut pas non plus sous-estimer le marché pour ça en Europe. Et c'est vrai que là où ça devient un peu flippant, c'est que les gros acteurs, c'est Amazon, Apple, Google, dans une certaine mesure Microsoft, et ça manque un peu de français. Enfin, Doctolib, ils sont mignons, mais ils sont encore un peu petits pour rivaliser. Donc, on a vraiment un problème d'échelle là avec les très gros Américains, qui en plus, alors il y a les Chinois aussi, et tout ça, ça mouline de la data. Et on sait très bien qu'en matière de santé, et notamment de prédictif, va savoir que telle pathologie arrive dans telle circonstance, et plus on a de données, plus on va avancer. Donc, c'est une espèce de course là qui est lancée, et faut pas louper le départ. Et je crains que l'Europe ait un peu loupé le départ.
Alors, Guillaume, dans un instant, Frédéric.
En fait, et d'ailleurs, l'illustration de l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, mais on a vu d'autres établissements hospitaliers aussi.
L'hôtel Corbeil-Essonne.
Mais on a vu aussi des boîtes de vaccins. La transformation numérique dans la santé, tout reste à faire. On est vraiment au niveau 0,5 comparé à d'autres domaines. Et la transformation numérique, c'est pas les acteurs de la santé qui sont en train de la faire, c'est les gens du numérique parce qu'ils ont la méthode, parce qu'ils ont le cloud, parce qu'ils ont les technos de développement, parce qu'ils ont accès aux capteurs de santé, donc c'est la première chose. Après, derrière, on voit quand même que l'accès aux soins, ça devient de plus en plus compliqué. Tu parlais de déserts médicaux, c'est en France et dans tout un tas d'autres pays. Et là, on voit que tout reste, et que la qualité de service, elle n'est pas au rendez-vous. On est tous d'accord, on ne va pas revenir sur l'épisode Covid et tout ça, mais on voit bien qu'on a un gros souci. Et plus que les acteurs de la tech sont persuadés que la tech peut améliorer la qualité de service, l'accès aux soins et tout ça, c'est les acteurs de la tech. Et c'est eux les premiers à se précipiter dans cet engouement. Ils y voient certes un marché, réduire des coûts, investir massivement et gagner de l'argent. Mais à côté de ça, c'est je vois pas les grands patrons d'hôpitaux un jour se dire. Les gars.
En même temps, on joue pas dans la même cour en question financière.
Oui, non. Après, il y a ça aussi au niveau d'investissement, mais aujourd'hui, même aux États-Unis, c'est pas les grands acteurs du secteur médical. Alors là, on voit CVS Health qui essaie de racheter la boîte aussi Signify Health, mais c'est pas les grands acteurs de la santé qui sont en train de révolutionner. C'est les Microsoft qui avaient racheté un réseau de cliniques, c'est les Apple avec les capteurs de santé. Enfin, et là-dessus, c'est les acteurs de la tech qui se disent tiens, on va avancer. Nous, si on y va, on investit beaucoup, on va avancer beaucoup plus vite, puis on va récolter récolter tout ça, et puis à nous le business derrière.
Alors, Amazon est intéressé, hein, la transaction n'est pas encore réalisée. Il faut savoir qu'il y a aussi CVS Health qui est intéressé. CVS,
et les assureurs qui tardent à bouger aussi.
Il y a Walgreens et CVS aux US. Hein, quand on trouve des pharmacies, c'est ou Walgreens ou CVS. Voilà, CVS serait intéressé aussi. Que veut faire Amazon, en fait ? Quelle est la stratégie d'Amazon dans la santé, à ton avis, Guillaume ?
Moi, je pense qu'on a une course à la plateforme, à savoir qui va être la plateforme, parce qu'il y a d'autres fabricants d'objets connectés. Il n'y a pas longtemps, je testais une montre connectée de Samsung. Alors, on a la fréquence cardiaque, le signal en termes d'arythmie, tout ça, ça fonctionne très bien. Et puis, en France, on a une super boîte, hein, c'est WeSings, qui est absolument génial.
Une vraie pépite.
En avance sur plein de choses, sur les balances connectées, avec le pourcentage de matière grasse de votre corps, le tensiomètre connecté, une montre également. Mais le problème,
d'oxygène dans le sang aussi, qui est une donnée.
Mais que doit relever WeSings, ils le disent eux-mêmes, c'est de devenir une plateforme, c'est-à-dire d'agréger, comme tu disais Elsa, toutes les données, un maximum de données, pour pouvoir être meilleur en prédiction. Et je pense, qu'Amazon, en faisant tout un tas de rachats dans le secteur, veut devenir la plateforme.
Ils distribuent déjà les médicaments. Ils avaient acheté Pillpack en 2017. Ils ont eu la licence et tout ça. Donc c'est un gros distributeur.
C'est sûr que l'acteur qui peut réussir n'est pas forcément pas celui qui fournit le device. C'est celui qui fournit la plateforme.
Bien sûr.
Et de ce point de vue, Amazon est très bien placé parce que ils ont cette capacité à englober. Ils ont une expérience eux-mêmes avec Alexa en mettant des appareils connectés dans les foyers, donc ils ont cette expérience-là, mais ils peuvent aussi interagir avec tout un ensemble d'acteurs. Là où un Apple sera plutôt à l'aise pour dire voilà, je m'occupe des clients Apple du sol au plafond. Mais Amazon, je pense, et aussi avec la puissance de son cloud, est particulièrement bien placé pour cette opportunité.
Ça choque pas les Américains qu'Amazon se positionne sur la santé? Alors nous, c'est choquant.
Ça choque pas les Coréens que Samsung se positionne sur la santé. Je pense qu'on est un peu dans le... ça devient un peu l'habitude. Enfin, Alexa, quel temps va-t-il faire? Alexa, comment je m'habille aujourd'hui? Alexa, quel médicament je dois prendre? Je veux dire, on est dans la suite logique, petit à petit. Enfin, il y a un truc que j'ai adoré, moi, il y a quelques jours. Ils réfléchissent avec... rappelle-moi quel studio, à mettre en ligne... à faire une émission de télé à partir des images qui sont captées via les caméras Ring. C'est normal, c'est dans la vie quotidienne. Non, c'est pas sur... MGM. Donc, qu'ils ont racheté. Donc, ils font toute la chaîne, là. Ils vont capter ton image, et après, tu pourras la regarder à la télé. Donc, à partir du moment où on est rentré dans cette logique-là, ils sont tellement dans les foyers...
On va pas être en pyjama, là, hein. Attention.
Ouais, un joli pyjama. Ils sont tellement rentrés dans les foyers que pourquoi pas la santé ? Il y a aussi une relation de confiance qui se crée. Donc, il n'y a pas la même notion, même rapport à la vie privée aux États-Unis. On ne regarde pas ce qui se passe chez moi. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'aux États-Unis, ils ont le droit de faire varier les montants des assurances beaucoup plus selon les profils des gens. C'est-à-dire qu'un jour, tu n'as pas fait tes 10 000 pas par jour, attention, ton assurance santé va augmenter. Bon, on n'est pas tout à fait encore là en France, hein.
Puis ils ont un côté, toujours la même chose avec eux, ils ont un côté très pragmatique, très pratique. Le programme Amazon Care, c'est un service de téléconsultation dans les entreprises. Mm-hmm. Ils ont pu le développer comme ça parce que c'est hyper pratique. Tout d'un coup, on s'est dit, mes salariés, ils n'ont plus à aller à chaque fois dans une clinique de santé. Ils peuvent faire ça presque depuis leur bureau,
en mangeant leur sandwich.
Et hop, je perds moins de temps. Ils font ça entre deux pauses.
Économiser de l'argent à l'entreprise qui paye des mutuelles qui coûtent une blinde. Hein.
Christophe.
Et globalement, il y a plus de confiance dans les acteurs, dans les grands acteurs privés de la part du bureau public et moins de précautions à se dire, je vais. Avoir Amazon comme plateforme de santé. Et puis d'un autre côté, de la part des grands acteurs, l'État fédéral est peu présent et les attentes par rapport au welfare state sont bien moindres que ce qu'elles peuvent être en Europe occidentale. Donc les entreprises aussi souvent se sentent porteuses d'une mission aussi de répondre aux grands enjeux de société.
Mais c'est peut-être plus facile pour Apple, non, d'aborder ce sujet de la santé qu'Amazon, parce que c'est vrai qu'Apple communique beaucoup sur la protection des données privées, etc. Non ? Enfin, c'est...
C'est toi qui regardes.
Non, mais c'est la promesse en tout cas d'Apple. C'est-à-dire que C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils disent on va pas toutes les données seront anonymisées, etc. Il faut absolument qu'il y ait pas de piratage, ça c'est quand même la condition numéro un, et puis qu'un jour elle soit pas tentée de passer d'un modèle d'une boîte qui est plutôt un modèle d'une boîte de luxe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vend très cher des devices pour se rémunérer le moins possible sur des services qu'on dit gratuits, ce qui est un peu l'antimodèle de Facebook par exemple.
Mais regarde après, quels autres acteurs peuvent y aller? Les assureurs, on va leur dire, ah oui, mais les assureurs, c'est pour nous vendre encore plus d'assurance. Si c'est les pharmaciens ou les labos, on va dire, ah, c'est pour vendre encore plus de médicaments. Merci. Eux, ils arrivent derrière en disant, non, mais nous, c'est pour plus de services et tout ça, des abonnements. Donc, tu vois, il y a ça aussi qui joue dans la mentalité.
Il est bientôt 21h30. Messieurs, dames, vous restez là. On va poursuivre ce grand débrief de la Q-Tech de ce lundi dans un instant, juste après l'info écho de Faiza Younsi. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Avec ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Elsa Bombard. Bonsoir Elsa. C'est une première dans Tech & Co en tous les
oui.
cas. Voilà, ça fait plaisir de te recevoir, journaliste au Figaro. À tes côtés, Guillaume Grallet, non moins talentueux journaliste tech.
Extraordinaire.
Au point, formidable, Frédéric. Simotel, bien sûr, et Christophe Holnet, senior advisor chez Apax Partner. On commente l'actu et on va s'intéresser justement à Samsung, puisque tu nous disais que tu as travaillé durant tout l'été sur les puces, qui est un sujet capital aujourd'hui. Hein. On le voit, c'est vraiment le sang de la technologie, hein, ouais. Les processeurs, la capacité de calcul.
On parlait de santé, hein, oui, on voit bien ça. Que tout, plus rien ne fonctionne sans puces, hein, pratiquement.
Tout à fait. Et on assiste, Fred, et on le voit tous les jours hein, dans Tech & Co, à des investissements colossaux, hein, de par les Américains, l'Europe aussi qui s'y met, un peu tardivement, on le regrette souvent, et puis l'Asie, et notamment la Corée, avec Samsung. Tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, Samsung qui investit 15 milliards de dollars dans ce nouveau centre de R&D qui, d'ici 2028, permettra de mener des recherches avancées sur les technologies futures. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas... Enfin, c'est un peu nébuleux, non, ce centre de recherche. On sait sur quoi ils vont travailler ou pas?
Alors, a priori, ils essaieraient d'aller vers des gravures plus fines parce qu'il y a une course à la...
au nanomètre.
Au nanomètre. Pour aller vers, descendre sous le 5, le 3, le 2 nanomètres. Alors, un grain de sable, c'est un micron, et le nano, c'est encore 1000 fois en dessous. Donc, on est vraiment dans l'infiniment tout petit. Et là où ça devient complètement fou, c'est qu'en fait, si on passe sous les 2 nanos, on commence à arriver dans des logiques qui sont plus les logiques actuelles du numérique avec des 0 et des 1, et là on commence à taper dans le quantique.
Donc c'est là on est à 3 nanomètres.
Et on n'est plus très loin. On est plus très loin, mais plus on descend, plus c'est compliqué.
Je crois
même.
Que TSMC va sortir des processeurs à 3
nanomètres. Ils ont annoncé qu'ils allaient entrer en fabrication sur du.
Voilà, et on murmure que l'iPhone 14, qui devrait sortir dans les semaines qui viennent, pourrait être équipé dans sa puce du très haut de gamme avec des puces gravées en 3 nanomètres.
Oui, alors là justement aussi ça pose il y a un sujet de concurrence, c'est que c'est TSMC qui les grave et que ça veut dire que c'est pas Samsung qui les grave, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à suivre le Taïwanais, et on sait aussi que Taïwan en ce moment c'est peut-être pas le seul endroit sur lequel il faut miser pour graver ses puces.
Le spécialiste du nanomètre, il est là,
c'est Guillaume. Ouais, intergalactique.
De l'atomique.
J'ai dit plein de gros mots sans la surveillance de Guillaume, pardon.
Non, tu rigoles, au contraire. C'était très clair.
C'était super. Non, mais c'est vrai qu'on arrive dans le subatomique, donc ça fait un peu rêver le quantique, etc. Mais la vraie bataille, c'est celle dont parlait Elsa, c'est-à-dire qu'en gros, tous les yeux sont rivés sur TSMC. Et sur Taïwan, les États-Unis ont demandé à TSMC de construire une usine aux États-Unis pour peut-être moins dépendre de Taïwan. Ça inquiète énormément les Taïwanais, mais effectivement, la bataille du nanomètre, elle se déroule ailleurs, y compris en Corée, au Vietnam, où Samsung a des usines. Peut-être pas assez en Europe, mais c'est vraiment la bataille du supercalcul du futur qui se décide à travers les investissements d'aujourd'hui.
Avec des investissements colossaux, on disait 200 milliards, je crois. Hein.
100 milliards annoncés l'été dernier, 350 annoncés là, parce que c'est évidemment cher. Mais il y a surtout, c'est peu d'acteurs. T'as des Intel, t'as des TSMC voilà, qui maîtrisent un peu la chaîne. Alors, Samsung était très fort dans les puces mémoire, maintenant il faut qu'ils aillent beaucoup plus dans les processeurs, dans l'IA, dans l'intelligence, tout ce genre de choses. Et puis derrière, il y a aussi, il faut compter sur eux, les Nvidia, les Qualcomm,
Mais eux, ils n'ont pas d'usine.
Oui, voilà. Eux, ils n'ont pas d'usine.
C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que les grands noms dont on parle, Nvidia, ARM, Qualcomm...
Design des puces, ne les fabrique pas.
Et les fabrique pas. Donc,
alors, Samsung design et fabrique.
Et en Europe, on a STMicro aussi. Qui design et fabrique.
Qui est notre petit Samsung.
Petit.
Oui, enfin, alors là, qu'il grave avec plus, ouais, un peu plus gros.
On voit qu'il y a une vague d'investissements massifs aux États-Unis avec Intel. Il y en a une usine à plus de 10 milliards. Ils ont également Magdebourg en Allemagne, Intel.
Micron a annoncé 40 milliards aux US.
Oui, aussi. Et effectivement, bon, ST Micro avec Global Foundries, c'est un investissement d'une dizaine de milliards.
5,7 milliards de mémoire.
Milliards, oui, à Grenoble. Donc c'est moindre, mais c'est quand même significatif. Et je pense que la lecture de ça, c'est une volonté de sortir de cette dépendance à TSMC et à Taïwan et de pouvoir avoir plus de capacité à produire. Non, et faire de la recherche qui permet d'accéder à ces micro-gravures. Et
puisque François aime bien les nanos, à ST Microélectronique à Grenoble, c'est descendre vers le 18 nanomètres.
Ouais. Voilà. Alors que TSMC est à 3 nanomètres.
Ah, voilà. Après, c'est pour quels usages ? Parce que les plus grands nanomètres, c'est dans les voitures et tout ça. Enfin,
oui,
voilà,
d'autres usages. Mais... Qui peut le plus, peut le moins.
Hein.
Ou le qui peut le moins, peut le plus.
On est un peu loin. Mais l'autre souci, je te l'entends juste un instant. L'autre souci, c'est l'écosystème aussi autour. C'est les Américains, l'écosystème, ils ont les clients autour pour vendre. Ils ont les gens pour approvisionner, pour leur.
Je suis pas sûr de comprendre.
Par exemple, pas sûr de comprendre. Et ben voilà, on a du mal à comprendre tout ça.
Fred Simotel, voilà. Qui se mêle à la discussion. Cela dit, là, elle n'a pas été très pertinente. Ouais. Hein. Je ne suis pas sûr de comprendre.
Et on voit. Et pourquoi
que vous vous dites pas ça, vous, de l'autre côté de la télé ou de la radio.
Mais il y a un vrai enjeu géostratégique et tout ça, justement, d'avoir les fabricants le plus proche de son de son bloc géographique.
Parce que depuis tout à l'heure, on parle à la course au nanomètre. Ça sert à quoi en fait d'avoir des processeurs de plus en plus petits?
Qui consomment moins,
qui prennent moins de place dans les appareils, qui consomment moins, qui chauffent moins, parce que c'est aussi un problème, chauffe de... Enfin, il y a énormément d'avantages.
Miniaturisation, puissance, efficacité énergétique.
C'est l'argument de ST, c'est dire nous, on a besoin de 18 nanos, parce qu'on va aussi vers un marché qui est extrêmement porteur en ce moment et qui demande, qui consomme du processeur, comme avant et consommer de l'essence, c'est le marché de l'automobile. Oui. Parce qu'entre l'électrification, la voiture connectée, la voiture de plus en plus autonome, et puis ça te fera ton lien vers ton sujet d'après, il y a besoin de plus en plus de processeurs pour faire rouler une voiture, mais aussi pour faire marcher une cafetière. Donc ST regarde où sont ses clients. Ses clients, c'est plus les fabricants automobiles que les fabricants de téléphones portables ou de montres connectées. Mais aussi, laisser ce marché de côté, c'est quand même un pari...
Ouais. Et puis il y a Intel, bien évidemment, qu'on n'a pas évoqué, mais qui investit beaucoup, beaucoup d'argent, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec, on le disait tout à l'heure, cette grande usine qui ouvrira dans quelques années. Ça sera en Allemagne.
Voilà.
Il y aura un centre de recherche et développement, je crois, en France. Hein. Voilà,
Et une usine de packaging au sens assemblage en Italie.
C'est ça. Très bien. L'Italie, tu connais bien, je crois, que tu apprécies.
Vaguement.
Très bien. On revient dans un instant. On va poursuivre parce que dans l'actualité, il y a pas mal de sujets. Effectivement, il y a le fameux autopilote de Tesla qui pourrait ne pas s'appeler autopilote ou full self-driving. En tout cas, certains le disent. Et puis, on va aussi évoquer la bataille du streaming. Netflix, dans la tourmente, peut-être détrôné par Disney. Il y a la guerre des chiffres, des abonnés. Mais bon, Disney... pourrait peut-être un peu mentir là-dessus, non ? Quand on fait les calculs, bon, enfin, on va en parler dans un instant parce que vous savez que dès qu'on parle de millions d'abonnés, ça devient un peu compliqué. Vous restez avec nous. J'espère que vous êtes des millions avec nous ce soir d'ailleurs, puisqu'on parle de millions d'abonnés. Allez, à tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà, le retour du débrief de l'Actu Tech en ce lundi 22 août. Si vous venez nous rejoindre, merci d'être là. Vous le savez, chaque soir, 20h-22h sur BFM Business, c'est Tech & Co à la radio, à la télé. Et c'est notre première pour cette nouvelle saison. Vous le savez, BFM Business, vous propose sa nouvelle grille de rentrée depuis ce matin. Et dans Tech & Co ce soir, pour débriefer l'Actu Tech, Elsa Bambaron, journaliste au Figaro, Guillaume Grallet, journaliste tech au Point, Frédéric Simotel... et Christophe Holnet. senior advisor chez Apax Partner. Netflix, Disney+, ça saignait quand même hein, cet été avec ben voilà la bataille de communication des chiffres. Alors on dit Netflix dans la tourmente depuis pas mal de temps et c'est vrai que après avoir connu cette incroyable puissance et cette croissance d'abonnés faramineuse, et bien voilà, depuis quelques mois, Netflix commence à perdre des abonnés. 200 000, c'était il y a quelques mois. Là, on a... Ils en ont perdu 2 millions, je crois. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a Disney+, qui est en pleine forme. Et donc, c'est la bataille des chiffres. Disney+, ne dit pas ouvertement qu'ils auraient dépassé Netflix, mais certains observateurs le disent. Alors, est-ce que c'est vrai, Christophe ?
C'est-à-dire qu'il y a un chiffre symbolique qui fait que quand on additionne les 152 millions d'abonnés Disney+, qu'on additionne les abonnés Hulu, les abonnés ESPN+,
qui appartiennent à Disney, rappelons-le.
On arrive à 221 millions, c'est-à-dire qu'on dépasse le chiffre de Netflix. Donc c'est symbolique. La réalité, c'est qu'effectivement, un certain nombre de ces abonnés sont comptés deux fois. Mais si on se reporte trois ans en arrière, on n'aurait pas forcément imaginé qu'un acteur puisse venir comme ça challenger Netflix. Donc la réalité, c'est que Disney+ est dans une dynamique de croissance forte encore, que Netflix a ralenti, mais que aussi globalement le marché du streaming, voilà, il devient un marché aussi plus mature, avec un certain nombre d'acteurs. Il y a Disney+, il y a Netflix, mais il faut pas oublier aussi Apple, Amazon et
Warner qui va arriver, HBO, avec Warner, donc, bien sûr.
Donc voilà, et on voit qu'il va, il va y avoir une guerre, il va y avoir une guerre impitoyable, je pense, et y compris avec des nouveaux business models qui vont émerger. Et on va voir comment la chose prend ou pas, puisque finalement, le sacro-saint 9,90$, bon, qui est 8$ pour Disney pour l'instant, un peu plus pour Netflix, bon, est-ce qu'il va rester à ce prix-là à condition d'accepter d'avoir la publicité? Est-ce que les gens vont rester dans ce mode-là? Est-ce qu'ils vont migrer vers les offres plus élevées? Est-ce qu'avec la crise qui s'annonce, les ménages vont peut-être arrêter d'avoir deux ou trois souscriptions? Donc voilà, je pense qu'on va vivre une période très très intéressante sur ce marché du streaming, mais qui en termes de marché sous-jacent est très très fort, puisque aux États-Unis là, Nielsen a publié une étude qui montre que l'audience cumulée des plateformes de streaming a dépassé l'audience des chaînes traditionnelles le mois dernier.
Le broadcast s'en prend plein la figure hein, quand même hein, dans cette histoire.
C'est là-dessus qu'on va voir justement tous ces changements. J'ai eu une photo tout à l'heure, une petite vidéo sur Twitter qui est assez marrante. C'est quelqu'un qui a filmé un immeuble à New York pour la sortie. Alors, je sais pas si c'était, soit il regardait House of Dragon, là,
c'était House of Dragon,
dans le préquel, de
Game of Thrones. Donc, production HBO de Warner.
Et je pense que la personne, elle passe devant l'immeuble. Alors, l'immeuble new-yorkais un peu, les années, début du siècle d'avant. Et on voit plein de fenêtres, un gros tiers ou presque la moitié des fenêtres qui clignotent. Qui ont les éclairs de lumière au même moment. Tout le monde regarde le même programme.
Ce qui est marrant, c'est que tout le monde regarde en même temps un même programme qui est en streaming, donc qui par excellence est fait pour ne pas être regardé au même moment. C'est-à-dire que tout le monde s'est jeté dessus à la sortie, parce qu'il brande du coup différemment. En fait.
Exactement, HBO l'a diffusé. Enfin, il y a eu une heure bien précise de diffusion traditionnelle en linéaire, en quelque sorte, de ce premier épisode de House of Dragons, qui est le préquel, rappelons-le, de Game of Thrones. Guillaume, ce sujet du streaming.
Non, mais je me demande pendant combien de temps Netflix va pouvoir survivre, parce que Netflix a toujours été la boîte qui...
Reed Hastings, qui nous écoute souvent.
Qui a été une entreprise qui est une cool compagnie, on a envie de dire, parce qu'ils sont toujours...
Cool, passer au ULE, parce que là, en ce moment, c'est plutôt ça.
Offert le luxe de pas aller vers trop de virages technologiques à la mode, c'est-à-dire de pas aller vers la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Pendant longtemps, Reed Hastings a dit, ça ne m'intéresse pas trop. Pas aller vers le métavers. Hein. Le PDG de Disney explique que le métavers, c'est vraiment l'avenir, qu'il faut investir. Netflix n'est pas du tout là-dedans, parce que c'est souvent une entreprise qui a eu des valeurs. Il y a quelques années, il y a un bouquin qui est sorti en disant les employés de Netflix peuvent prendre autant de vacances qu'ils veulent. C'est aussi une entreprise qui a pris un tournant environnemental en disant nous, on va être carbone neutral, ne pas dégager de CO2 très, très, très rapidement. Carbone neutre, merci Elsa. Mais aujourd'hui, on se demande ce qui distingue véritablement Netflix. Et c'est véritablement ça le véritable challenge, ouais, je pense, pour Netflix, de se réinventer, de retrouver des valeurs.
Oui, parce qu'au départ, on vendait beaucoup Netflix sur le profit. On disait, ils savent parfaitement définir le profit de chacun des abonnés. On savait, j'aime bien ça, donc on va me proposer.
C'était facile, hein, ils ont apporté cette simplicité qui est super.
Accessoirement, il faudrait qu'il y ait des contenus qui continuent de faire envie. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu épuisé là, le flux de leur grande. De leur catalogue. Disney, ils ont une profondeur de champ de catalogue qui est délirante. Et puis toute famille qui a des jeunes enfants est un peu, je dirais presque, condamnée à s'abonner à Disney parce que va échapper à la Reine des Neiges quand t'as des gosses, ou c'est quand même pas facile.
Star Wars, Harry.
Voilà. Non, c'est pour moi Star Wars, c'était gentil.
Ah, pardon.
Jeune Padawan, on en recose.
On pourrait regarder sur le canapé ensemble Star Wars.
Il y a aussi une question de catalogue qui va se poser assez vite, quoi. Ouais. Et Apple joue comme d'habitude la carte du haut de gamme, quoi. Il y en a pas beaucoup, mais c'est bien.
Et c'est vrai que Netflix a une image un peu de bas de gamme finalement aujourd'hui. Alors ils ont de super productions.
Mais il fallait les chercher, il fallait les fouiller.
Ils ont deux trois perles. Mais Disney Plus, par exemple, je sais pas si. Enfin, moi, je suis abonné à Disney Plus et je trouve que c'est un service qui progresse énormément avec notamment la case star. Vous avez vu, il y a maintenant plein de super trucs trash qui n'ont rien à voir avec Disney, en fait. Hein. Il y a de très très bons docus, de très très bonnes séries, etc. Alors que chez Netflix, on a tout le temps l'impression de regarder la même chose, quoi, en fait. Alors peut-être que je suis pas la cible, ou peut-être que les algos ne font pas leur travail, mais on sent qu'il y a un effort qui est fait de la part de Disney+. Voilà, avec Netflix qui produit beaucoup, 17 milliards par an, hein, rappelons-le, mais avec...
Puis on risque de revenir aussi au début des grands studios américains de cinéma, où ils ont déjà commencé à signer des exclusivités avec des stars, et là aussi, hein, ça va être la bataille des stars. On se souvient à l'époque des gens qui étaient chez Paramount, chez MGM, n'allaient pas chez l'un, chez l'autre, etc., chez Universal, et ça va sans doute commencer à se faire là, donc il y aura ce catalogue aussi qui va être compliqué.
Mais ça, ils savent faire, hein. Les acteurs américains signer des exclusivités avec tel ou tel star, recréer ces petits noms. Je ne sais pas si Netflix aura.
Ils ont signé un truc avec Tim Burton, là. Il va avoir une série.
Ils ont peut-être aussi un atout, c'est que pour qui a des ados me comprendra, c'est qu'ils ont des animés japonais. Et ça. L'animé japonais, ça reste. Mais bon, ça, si ça devient niche à ce point-là, c'est peut-être pas forcément non plus bon signe. Moi, je pense que le gros problème, ça va être la profondeur du catalogue.
Bien sûr. Et puis après, il y a la publicité. Christophe le disait tout à l'heure. De nouveaux modèles économiques. Avec, je ne sais pas si vous avez vu, parce que j'ai lu ça cet été sur la plage, c'est Netflix va proposer donc un abonnement moins cher avec de la pub, mais on ne pourra pas télécharger le contenu. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un semblant Netflix, mais en fait, c'est un peu comme Spotify quand vous payez pas. Vous pouvez pas télécharger les chansons. Si par exemple vous êtes dans le train, vous pourrez pas regarder votre série. Si vous êtes dans l'avion, ça marchera pas. Enfin voilà, ça va être un abonnement minimum en quelque sorte.
Dégradé. Mmh.
Dégradé.
Alors pour les auditeurs américains qui sont partis des chaînes de télé traditionnelles parce qu'ils n'en pouvaient plus de la pub, où vous mettez 4h30 pour regarder un film d'une heure et demie tellement il y a de pub, s'ils se retrouvent dans le nouveau cauchemar sur Netflix, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord pour payer pour ça. Enfin, ça risque de aussi rebattre considérablement les cartes en fonction de la dose de pub qu'ils auront à subir.
Comment doivent réagir, à votre avis, les médias comme le nôtre, des médias, on va dire...
Vous avez Salto, vous êtes sauvé. Non, pardon.
Non, on ne fait pas partie de Salto.
C'est vrai, en plus.
RMC Play.
Juste
une chose par rapport à ce que tu disais, la profondeur de catalogue, c'est aussi les univers aussi. Aujourd'hui, Netflix, on a du mal à se définir dans un univers Disney. Voilà. Alors, ils ont certes les marques Marvel, Star Wars, etc. Mais on est
très bien identifié.
Ouais, c'est bien identifié. Netflix, on est. Alors, il y a quelques produits stars, les Stranger Things et tout ça, mais on est un peu perdu. Et puis leur top hit, ça change tous les jours. Je pense qu'ils ont un petit problème d'algorithme.
Alors c'est un vrai pari, mais je pense que peut-être une partie de leur salut viendra peut-être justement du tournant environnemental. En tout cas, je pense que les jeunes adorent la Princesse des Neiges, mais ils adorent également de plus en plus la Reine des Neiges.
Ça s'appelle Elsa en plus, zut.
Voilà. Non, mais je pense qu'ils sont de plus en plus préoccupés par l'environnement. Et j'avais vu quelques justement fictions ou même documentaires qui étaient super, qui sont des exclus Netflix, et peut-être que s'ils mettent ça davantage en avant, peut-être ça pourra les aider un peu.
Très bien, il y a pas mal de docs très sympas, notamment, j'ai regardé, hier je vous raconte ma vie, un doc sur Abercrombie, Vous savez, cette marque de mode américaine qui a subi le scandale de son patron complètement fou, qui mettait des jeunes éphèbes à l'entrée des magasins, etc. Mmh. Et ce doc est très bien fait, qui est un doc Netflix. Je vous conseille, il est sur Netflix. Il n'est pas chez Disney, par exemple. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on évoque les soubresauts de l'autopilote de Tesla? Est-ce que ça vous intéresse, ce sujet, messieurs, dames? Oui, je le vois. Ouais. Je le vois dans les commentaires. Qui me l'a dit tout à l'heure.
Il y avait une histoire horrible, en plus, là, qui est sortie, puisqu'ils ont testé l'autopilote en mettant les gamins, enfin, des gamins, des employés. Enfin, normalement, quand on fait des tests sur voiture,
un crash, on met
surtout des mannequins. Non, merci.
C'est un client zélé, qui est un fan de Tesla, qui a testé le FSD sur ses enfants.
Donc ça.
En filmant, et le mettant sur YouTube.
C'est-à-dire qu'il a laissé ses enfants au volant de la voiture.
Non, devant. Pour vérifier que le truc s'arrêtait bien.
Ah oui, d'accord.
Au choix, il avait super confiance. Ouais. Hypothèse 2, il voulait débarrasser des gosses, je sais pas.
Oui. Ou alors les gosses avaient fait une énorme bêtise juste avant, je pense.
Voilà. Donc ça a été mis sur YouTube et ça vient d'être retiré.
Donc c'était pas super pour l'image de Tesla. Ça, même Musk a compris que ça, non.
Mais cet été, je pense qu'il y a eu cette annonce de l'autorité de l'autoroute américaine qui ne veut plus que Tesla indique.
L'autopilote, parce que ça sera.
Quel autopilote
En tout cas, une. Comment dirais-je ? Un mot galvaudé par rapport à ce que fait vraiment la voiture, c'est ça, hein ?
Le terme qui est utilisé, c'est déceptif, ce qui veut dire trompeur. Voilà. En fait, ce serait
un mot.
Traduction n'est pas décevante,
mais
trompeuse.
Ce serait une information trompeuse sur la qualification de cette fonction d'autopilote ou de full FSD,
full self-driving,
et qui finalement ne s'exécute pas complètement. Alors, une question que je me pose, moi, c'est pourquoi ça arrive maintenant ? Parce que ça fait un moment que autopilote et FSD sont annoncés et qu'autopilote est déjà plus ou moins en service.
Donc. Tout dépend des pays.
Il y a aussi
pays,
des accords internationaux, le protocole de Vienne qui fait qu'on n'a pas encore le droit d'annoncer. On est encore au stade 3 de mémoire, on n'a pas encore le droit d'autoriser ce qui serait la phase 4 et la phase 5. Donc en fait, ils se font rattraper aussi, là encore, Musk est allé un peu plus vite que la musique et il n'a pas le droit d'aller plus vite que
l'État de Californie, là, en l'occurrence. Ouais, parce que c'est se garer automatiquement, c'est changer de voie automatiquement, c'est appeler sa voiture quand elle est garée à un autre endroit pour qu'elle nous rejoigne. Enfin, il y a plusieurs règles là-dessus. Après, on peut imaginer aussi que maintenant que les autres commencent à s'y mettre aussi un peu plus sérieusement, le lobbying aussi des autres constructeurs d'auto disent attendez, vont un peu pointer du doigt, enfin ils vont un peu voir les autorités en disant dites donc.
Ford qui va mettre 50 milliards dans la voiture électrique et autonome, ils ont peut-être dit regardez ce qu'il fait le petit là avec sa petite voiture. Nous on arrive avec nos trucks. Il faudrait que ça soit propre la route quand on va se mettre.
Et c'est pas faute de. Enfin à chaque fois, Elon Musk raconte la même histoire. Il dit voilà ma voiture, elle sera dans quelques mois. Enfin bon, c'était il y a quelques années, mais c'est toujours. Il y a une espèce de chronologie chez Elon Musk qui n'est pas la même que la nôtre, visiblement. Pour lui, sa Tesla, elle est quasi autonome, Guillaume. Il le dit, il le répète.
Ouais,
elle va l'être.
C'est peut-être. Il essaye de se convaincre. Moi, je me rappellerai toujours. En 2013, j'attendais 2020 avec impatience parce que la personne que j'avais en face de moi, qui était un des responsables de la voiture autonome chez Google, m'avait expliqué en 2020, quand ma fille aura 18 ans, on aura une voiture totalement autonome. Échelle 5, celle que vous avez décrite, on en est encore loin. On voit bien que le stop and go est encore nécessaire. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Et on a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Peut-être qu'on n'aura jamais de voiture totalement autonome, d'ailleurs. Parce qu'il faut.
D'ailleurs, on parle plus d'engins de logistique.
Exactement.
Alors, pour nous, de l'assistance. Mais sinon, c'est des engins de logistique, de transport,
de camion.
Messieurs, dames, merci. Cette heure en votre compagnie était un pur délice.
Merci
voilà,
François.
On a été gâtés, Frédéric, pour cette rentrée de Tech & Co, là. Hein, avec Elsa,
merci d'avoir été
avec nous. La porte du studio de BFM Business, t'es grande ouverte. Tu reviens quand tu veux.
Attention, je vais le faire, je vais vraiment revenir.
Eh bien, alors, tu sais quoi, on sera très heureux. Journaliste au Figaro, tout comme Guillaume, ça y est, maintenant, il a la clé. Il vient quand il veut aussi. Guillaume, journaliste Tech au Point, pareil pour Christophe Honnête, senior advisor à Pax Partner. Et Frédéric, il est chez lui. Voilà, il dort là. Comment vous dire ? Voilà,
comme Elon Musk dans son usine. Ouais.
Tout à fait. Très bonne soirée avec nous. Merci de nous suivre. On sera là bien sûr demain, dès 20h en direct à la radio, à la télé. Dans un instant, Good Evening Business avec Guillaume Paul. Bonne soirée, à demain.